ou je serai là ou pas, parce qu'au bout d'un moment, moi, je suis obligée de partir pour préparer la suite, me reposer un peu, préparer la suite, parce que quelquefois, les temps d'intercession sont, les temps de ministère sont longs. Il y a des sacrés combats. Il y a quelquefois, ça dure 2 heures derrière, hein, vous voyez. Il y aura aussi un temps, toutes les après-midi, d'intercession. Et on veut apprendre aussi aux gens à intercéder, d'abord pour le séminaire lui-même, et puis pour tous les sujets que le Seigneur met à cœur. Et chaque fois, on demandera à une personne de guider l'intercession, de conduire l'intercession pendant 1 heure. Et ceux qui veulent y participer, y participent. Ceux qui ont envie de se promener dans la campagne, qui vont se promener dans la campagne. Ceux qui ont... Et puis après, il y a le temps de tout simplement pour manger. Et puis on recommence à 7h30. C'est très dense, je vous le dis, hein, c'est très dense. Il y aura aussi des matinées, pour ceux qui le souhaiteront, des matinées où Laurence va apporter un enseignement sur des sujets qu'elle connaît très bien, notamment la délivrance des enfants, pour ceux que ça intéresse. Elle est nounou, alors elle connaît ça par cœur. Et puis, également sur les arts martiaux, parce qu'elle connaît très très bien ce sujet. Donc ce seront des enseignements un petit peu à part. Peut-être que le Seigneur en mettra d'autres, pas impossible. Mais normalement, c'est les après-midi et le soir. Et puis, il y aura du rap. Alléluia. Et puis, à la fin de la semaine, ce sera avec Christian Pelonne, donc ce sera encore autre chose. Qu'est-ce que j'ai oublié? Alors, ce qu'il faudrait, c'est que normalement, l'intercession, ce sera entre 5 et 6. Est-ce que tu as quelqu'un que tu peux désigner? Bon, non, j'avais demandé à Nassou, mais elle est complètement KO parce qu'elle n'a pas dormi de la nuit. Est-ce que quelqu'un ici a l'habitude de mener l'intercession?
Elle n'est pas là. Je pense à Mireille, mais elle doit être aux toilettes. Ah, elle est là. Ben, Mireille, lève-toi.
Est-ce que vous êtes d'accord pour mener la première intercession? Parce que ce qu'on voudrait, c'est que tous les jours, il y ait quelqu'un qui guide l'intercession, parce qu'on a chacun des manières de guider l'intercession différentes, et que c'est au contraire une richesse, et puis que...
Donc à partir de
18h? De 17h, hein, parce que entre 18h... Voilà. Le repas est à quelle heure?
Il est à 18h30, le repas chaud qui est servi au restaurant.
D'accord.
Seulement pour nous. Donc, entre 17 et 18h, comme ça, ça laisse une bonne demi-heure pour...
Respirer voilà. Un peu, voilà.
Voilà.
D'accord.
Alors, juste pour le temps du ministère, il n'y a que les personnes qui ont une petite pastille de couleur.
Les premiers jours.
Voilà, qui sont habilitées.
Les premiers jours, parce que le but... Bon, au début, on ne vous connaît pas tous, voilà. Mais il y en a certains qu'on va assez rapidement lever, parce qu'il y en a qu'on connaît, hein, il y en a que je connais ici, que tu ne connais pas, qui ne t'a pas donné de pastilles, puis à qui je donnerai les pastilles.
Et puis on donnera les pastilles, au fur et à mesure.
Puis on donnera, le but c'est quand même que...
C'est que le plus grand nombre se lève, pour ne pas dire tous, quoi. C'est
prier les uns pour les autres, afin d'être guéris, afin d'être délivré la guérison. Nous allons voir que la délivrance et la guérison, la parole, ne sont qu'un seul acte, pratiquement, hein. Et que c'est de la folie de séparer l'un de l'autre parce que Jésus ne les a pas séparés. Amen. Alléluia. Donc on va maintenant rentrer dans le vif du sujet, si j'ose dire. On va déjà poser les assises de la délivrance. Vous êtes ici, pas pour être délivré, pour apprendre à délivrer les autres. Ça ne veut pas dire que vous ne vivrez pas des délivrances. Pour être simple, nous avons tous besoin de délivrance. Nous arrivons tous d'un monde pécheur. Le moindre péché donne des droits à Satan. Il y en a qui arrivent avec des bagages en plus ancestraux extrêmement lourds ou des liens parce qu'on a touché à n'importe quoi dans le monde et que les églises ne pratiquent pas la délivrance ou très peu ou très mal avec une grande méconnaissance. Moi, le Seigneur m'a appelé dès le début dans la délivrance. J'avais pas moi 4 mois de conversion, j'ai fait ma première délivrance, j'ai vu le démon sortir, je suis resté 3 jours à trembler derrière, mais bon, c'était comme ça. Mais c'était un appel, c'est un appel, vous savez, un peu comme tout le monde peut prophétiser, mais il y a des appels un peu particuliers de combattants, hein, dans une armée, il y en a qui sont mis en première ligne par le Seigneur, allez savoir pourquoi, c'est lui qui nous a fait, il sait pourquoi, et c'est aussi un domaine où on apprend, je veux dire, énormément des autres. Et comme le Seigneur m'a envoyé très très vite dans tous les continents et notamment beaucoup en Afrique, j'ai énormément appris aussi avec les Africains. Je me suis aperçu que les Européens étaient d'une ignorance épouvantable en manière de délivrance. Si bien que les gens étaient liés, quoi. Ils sont liés. Et ils ont autant besoin de délivrance pratiquement que les Africains. Ils en ont autant. Parce que ce qui est chez nous, c'est caché. C'est la sorcellerie, elle se cache derrière la franc-maçonnerie, elle se cache derrière le catholicisme, elle se cache derrière des tas de choses. Des tas de petites coutumes qu'on a ou qui sont de la haute sorcellerie. Et puis il y a de la sorcellerie tout court, mais qui est bien cachée, parce qu'on était des pays soi-disant chrétiens, donc ça se faisait en cachette, alors que là-bas ça se fait au grand jour. Donc les gens en général ne savent même pas pourquoi ils sont tellement liés, pourquoi ils ont tellement de problèmes. Et nous allons le voir au long de la semaine que tout ça est totalement et définitivement lié au péché. Hein, et que la plupart des gens ont besoin de grands besoins de délivrance. Je voudrais un sujet, donc on va commencer. Je suis extrêmement frappée par, depuis quelque temps, ceux qui vont sur mon blog l'ont vu, j'ai mis un... c'est comme s'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de passer dans le monde que le Seigneur veut rétablir. Pendant des années, on n'est plus, aucune église ne voulait entendre parler de la loi. Ah bon, on n'est plus sous la loi, on n'est plus sous la loi, on n'est plus sous la loi. Et tout d'un coup, on est en train de se rendre compte que tout simplement, ça veut dire que les gens n'ont plus aucune crainte de Dieu, n'ont plus le fond de n'importe quoi, sont de plus en plus pécheurs. Or, Jésus, partout où il passait, il parlait de la loi. Parlait de la loi. La grâce n'est valable que par rapport à la loi. C'est parce qu'il y a la loi qui nous condamnait, la loi de mort, c'était une loi de mort qui montrait qu'on était automatiquement condamné à mort, que la grâce est magnifique. Mais le prix de la grâce est d'autant plus élevé qu'on connaît les conséquences de la loi. Et la loi n'a pas disparu d'un iota. Ça veut dire que Jésus, qui lui a commencé son ministère au milieu d'un peuple qui craignait Dieu et qui connaissait la loi, et la première chose qu'il faisait était de délivrer les gens. Au milieu du peuple de Dieu, partout où il passait. Et aujourd'hui, on pense qu'on peut se passer de délivrance avec des gens qui arrivent d'un monde où il n'y a plus de ni de foi ni de loi, où les gens touchent à n'importe quoi, où l'occultisme est répandu partout, alors que les gens sont liés, comme probablement ils n'étaient certainement pas liés du temps de Jésus, puisque le monde est de plus en plus pécheur. Donc ne pas pratiquer de délivrance maintenant, c'est de la folie. Le Seigneur m'a fait la grâce, il y a quelques mois, j'étais à Mulhouse. Tu étais là, Nassira, quand j'étais à Aglo ?
Oui, oui.
Je vais dans une réunion de femmes, je fais tout simplement mon témoignage, les gens s'avancent pour la conversion après, et au fur et à mesure qu'ils s'avançaient, Dieu était en train de leur faire une délivrance monumentale.
C'était phénoménal.
C'était extraordinaire l'onction. Et le Seigneur était en train de montrer, c'est ça l'évangile normal. Les gens arrivent au Seigneur, on devrait dans la foulée les délivrer pour qu'ils puissent avancer avec Dieu. Or, les gens, on les laisse dans le lien, on leur fait croire en plus qu'ils sont délivrés. Alors ils vivent dans la honte parce qu'ils ont des pulsions, parce qu'ils ont des tensions, parce qu'ils n'arrivent pas à surmonter leur comportement, ils culpabilisent. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas responsables des péchés. Ça, on va le voir, hein, attention, ce n'est pas la délivrance qui résout tout. Mais je veux dire que c'est criminel de laisser les gens, les chrétiens, dans les liens où ils sont. Ça fait vraiment le bonheur de Satan, si j'ose dire, parce que pendant ce temps-là, pendant que les chrétiens sont bien liés, ils ne peuvent pas servir le Seigneur et ils ne sont pas une menace pour son royaume. Tellement ils ont de combats intérieurs à mener simplement pour arriver à surnager. Amen. Parce que c'est ça la vérité. Or, l'évangile est un évangile de délivrance. C'est la première chose que Jésus a fait. C'est que dès qu'on ouvre la Bible, on est stupéfait. On voit l'évangile de Marc où on rentre directement dans le ministère de Jésus. Tout de suite, les premières choses dès le chapitre 1, vous voyez une collection de délivrance. Amen. Donc, on va parler de la délivrance. Alors, souvent, on va parler, pour commencer, de toutes les fausses doctrines qui existent sur la délivrance, parce que nous avons besoin, littéralement, de réenseigner les gens avec la parole de Dieu, en disant, ce que vous avez entendu est du mensonge. Amen. Parce qu'il y a des églises entières qui prétendent des dénominations entières qui prétendent que les chrétiens n'ont pas besoin de délivrance, et des dénominations qui parlent de délivrance, mais bon, comme ça, vraiment des cas très exceptionnels, hein. Et je pense qu'il y a 1% d'églises qui pratiquent vraiment la délivrance. Honnêtement. Ce qui est absolument criminel. Parce que Jésus, qui était. C'est vraiment une forme d'orgueil dingue. Parce que Jésus, qui était la parole de Dieu incarné, on peut dire que son enseignement était puissant. En plus, il y avait une onction extraordinaire qu'il suivait, et il était à lui seul les 5 ministères, pourtant il s'est donné la peine de déclarer tous les gens qu'il rencontrait. Et maintenant, on a appris dans les écoles bibliques aux gens que leur parole suffisait. C'est de la folie. Ça veut dire qu'ils sont tous beaucoup plus forts que Jésus. Que simplement, dès qu'ils ouvrent la bouche, il y a les démons qui sont morts. Ben, on va le verra cette semaine. Je suis désolée, mais quand les démons s'en vont, c'est comme dans les actes. Il y a des grands cris. Il y a des vomissements. Il y a des manifestations physiques, quelquefois d'une très grande violence. Parce que les démons ne sortent pas comme ça. Les démons, ils se cachent et ils agissent à l'intérieur. Et ils n'ont pas la... Si on ne leur ordonne pas de sortir au nom de Jésus, car tout genou doit plier le genou. Toute créature doit plier le genou devant Jésus, et c'est le nom de Jésus qui est tout puissant. Les démons ne sortent que quand on prend l'autorité. Sinon, ils ne sortent pas. Ils restent cachés. Ce sont des squatteurs. Un squatteur, si vous n'arrivez pas avec l'huissier et les gendarmes, il ne sortira pas. Amen. Tant qu'on ne le bouge pas, il reste. Alléluia, c'est des squatteurs. Ils n'ont pas le droit d'être là quand on est chrétien, hein, quand on est chrétien et qu'on ne pêche plus. Ou qu'on a demandé pardon pour le Seigneur, au Seigneur pour les péchés. Et à partir de ce moment-là, ils n'ont plus de droit. Mais s'ils n'ont plus de droit, il faut quand même exécuter, comme le dit le psaume 149, exécuter le jugement qui est écrit contre eux. C'est-à-dire arriver avec le décret de Dieu, aller dehors au nom de Jésus-Christ. Tu es condamné, tu dois partir, tu n'as aucun droit d'être là. Amen. Amen. Donc, on va parler de ces fausses doctrines et on va montrer combien elles sont complètement tordues par rapport à la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'on prend des petits bouts de versets, on les comprend mal et on décide, une bonne fois pour toutes, que, ben voilà, on a établi une doctrine. Alors, je vais prendre la doctrine « Tout est accompli ». Mais mon chéri, mon pauvre chéri, ma pauvre sœur, mon pauvre frère, mais tout est accompli, t'as absolument pas besoin. D'ailleurs, c'est tellement vrai, tout est accompli, qu'il n'y a plus aucun malade dans les églises, puisque Jésus a porté toutes les maladies. Donc il n'y a plus aucun malade. Il n'y a plus d'infirmes. Il n'y a plus de pauvres. Puisque Jésus, de pauvre, de riche qu'il était, s'est fait. Tout est accompli, tout est accompli. Et puis on se demande, puisque Jésus a dit « Dieu connaît tous vos besoins », il y a beaucoup de chrétiens qui disent « Oh ben Dieu connaît mes besoins ». Mais Jésus, mais Paul dit « Faites connaître vos besoins à Dieu ». Alors il faut qu'on comprenne ce que veut dire « Tout est accompli ». Parce qu'on l'applique pour, on ne l'applique pas pour la guérison. Pour la guérison, on va prier pour les gens, parce que ça se voit quand quelqu'un est malade. Il y a de la fièvre, il y a des choses. Mais quand quelqu'un est complètement lié par les démons, ça ne se voit pas. Je dirais que ça ne se voit pas pour les gens qui n'ont pas l'habitude et pas le discernement. Parce que pour ceux qui ont l'habitude de la délivrance, on le voit tout de suite. On le voit à quel point les gens sont liés. Et puis eux-mêmes le voient dans leur vie. Eux-mêmes le sentent, eux-mêmes le vivent. Eux-mêmes, souvent, ils ont honte de ce qu'ils vivent en disant « Ah ben, je ne suis pas comme les autres chrétiens » ou « Dieu ne va pas m'aimer » ou des choses comme ça. Enfin, tout l'arsenal de raisonnement qu'on peut avoir pour essayer d'expliquer pourquoi on ne fonctionne pas comme les autres ont l'air de vouloir fonctionner. Mais il y a une hypocrisie monumentale dans beaucoup d'églises. « Oh, tout va bien grâce au Seigneur !» Tout va mal, avec tous les travers. C'est pas la foi, ça. C'est du mensonge. Ça, c'est la méthode couée. c'est pas la foi. C'est l'auto-persuasion, c'est pas la foi. Amen. Alors on va dire que Luc 4. Jésus rentre. On viendra beaucoup sur Luc 4 d'ailleurs cette semaine.
Laurence, je peux avoir une bouteille d'eau avec un verre?
Pas grave. Jésus, donc, c'est juste après la sortie du désert. Il rentre dans la synagogue.
Non.
Non, non, ça c'est la bouteille de vivre. Non, non, il squatte sa bouteille. Non, simplement que je me tressais de la bouteille. Et puis, de toute façon, moi, je tiens pas du tout à avoir de l'eau glacée. Hein. Alors donc, Jésus rentre dans la synagogue comme par hasard. J'aime beaucoup les rouleaux, les hasards de Dieu. On lui tend un rouleau à lire et il commence à lire Ésaïe 61. L'Esprit de l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a besoin pour donner, pour guérir les malades, pour libérer les captifs. Hein. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour envoyer les libres les opprimés. Pour publier une année du grâce du Seigneur. Et il s'arrête en plein milieu de verset. Et il va s'asseoir. Il se passe quelque chose. Personne ne comprend pourquoi il s'est arrêté au milieu de ce verset. Parce que vous connaissez le verset suivant. Enfin, l'autre moitié du verset, c'est « Et une année, et un jour de colère de notre Dieu. » Or, l'année de grâce venait de commencer. Et le jour de colère allait attendre 2000 et quelques années. Je ne sais pas le nombre exact. Mais en tout cas, il arrive. Le jour de colère. C'est le jour du jugement. Hein. Alors donc, il s'assied et quelque chose se passe. Et tous les yeux sont braqués sur lui. Et alors, il leur dit une phrase extraordinaire. Il dit, alors il commença à leur dire. Il commença. Quelque chose venait de se produire. Il venait de prononcer des paroles de Dieu dont l'accomplissement commençait dans les lieux célestes. Il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Il en parle comme au passé. Aujourd'hui, c'est fait. Il vient de parler du recouvrement de la vue des aveugles. Or, dès qu'il va sortir de la synagogue, il va aller commencer à guérir les aveugles. Mais il va le faire. Il va agir. Il va mettre la salive sur les yeux de l'un, il va toucher les yeux de l'autre, il va faire les choses, etc. Il va agir derrière. Il dit, il a promis aux captifs la libération. C'est fait. Mais dès qu'il va sortir, il va commencer à aller prendre l'autorité pour aller libérer les captifs. Ça veut dire que Dieu a mis la provision dans le ciel. L'apparition même de Jésus faisait que l'autorité divine, de la parole divine, pouvait commencer à s'exercer. Et Jésus était la parole de Dieu. Et elle avait le ministère de Jésus allait commencer. Et il continue de nos jours. C'était accompli. Dès que Jésus avait commencé son ministère, les promesses de Dieu commençaient à avoir leur accomplissement, pouvoir se faire. Ça ne changeait rien au fait qu'il fallait rentrer dans une action. Le problème qui est le plus grave, à mon avis, qui touche l'Église actuellement, c'est la passivité. On apprend aux gens à être assis, à écouter et à ne rien faire. Ou un minimum. Alors que Dieu fait sa part, mais il fait toujours faire une part aux hommes, car Dieu nous aime. Nous ne sommes pas des marionnettes. Il veut que nous prenions notre part à faire. Il veut que dans toutes les choses que tu accomplis, nous puissions dire, nous étions là, nous avons fait ça. Et si vous lisez d'un bout à l'autre de la Bible, les miracles de Dieu, à part très rares exceptions, Jésus ou Dieu, hein, dans l'Ancien Testament, Jésus dans le Nouveau Testament, n'ont jamais fait faire quelque chose sans demander aux hommes de faire quelque chose. Yves parlait tout à l'heure de pour la vieille dame d'aller chercher les pots, hein, des gestes bizarres. Bon, d'aller chercher des récipients, alors qu'elle avait une énorme dette à payer. Bon, il y a un impôt à payer, Jésus dit, va et jette et tire le premier poisson venu. Il dit ça à un pêcheur qui avait l'habitude de pêcher les poissons par centaines. Il dit, va en tirer un. Bon, c'était vraiment le plus facile à faire, d'en tirer un. Il avait l'habitude d'en tirer 100 ou 200. Et il va faire ce geste. Quel était le plus grand miracle ? De ressusciter Lazare ou d'enlever les bandelettes ? De ressusciter Lazare. Mais il a demandé aux hommes, enlevez les bandelettes, déliez-le. Dieu demande toujours, dans tout ce qu'il fait, pour l'accomplissement de ces miracles, que nous fassions notre part. Amen. Amen. J'ai cité tout à l'heure Apocalypse 12, 11, si je me souviens bien. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ça, c'est la part de Dieu. C'est la part la plus gigantesque, la plus immense. Rien ne peut remplacer cette part-là. C'est fait. Et l'un ne remplace pas l'autre de la parole de leur témoignage. C'est-à-dire que pour vaincre Satan, Dieu a fait sa part, c'est donner le sang de Jésus. Le sang de l'agneau a été immolé. Mais nous avons nous-mêmes à faire quelque chose. Nous aurons toujours à faire quelque chose. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans la Bible, d'un bout à l'autre, vous verrez que jamais deux fois Dieu n'a fait accomplir le même geste pour faire des miracles. Ce qui déclenche les miracles de Dieu, c'est notre sensibilité à faire des gestes, pas des gestes difficiles, mais des gestes que Dieu nous demande. Pas de faire des exploits extravagants, de gravir des montagnes, des choses comme ça. C'est tout simplement d'être sensible à la voix de Dieu et de faire les petits gestes que Dieu demande. C'est souvent des gestes déroutants. Quand il demande à Pierre d'aller tirer une ligne pour aller pêcher un poisson, c'est complètement déroutant pour aller payer son impôt, non ? Quand il demande, quand il a ressuscité Lazare, ah, tant qu'à faire, il pouvait faire que toutes les bandelettes tombent d'un coup. C'était rien. Mais il voulait que l'homme fasse. C'était rien à faire. Mais il fallait le faire. Amen. Sinon, Lazare ne pouvait pas bouger. Amen. Il restait lié, fagoté comme immobile. Donc, il y aura toujours la puissance de Dieu. Dieu a pourvu, tout est préparé, mais nous aurons toujours, non pas à faire des choses, ce qu'on va apprendre cette semaine, c'est pas des automatismes ou des trucs ou de la magie. La délivrance, c'est pas une magie. La délivrance, c'est la foi dans ce que Dieu a fait et l'écoute de Dieu pour faire ce qu'il nous demande de faire. Et des petits gestes souvent, des petites choses toutes simples, des petits mots à prononcer, idiots. Je vais prendre un exemple. Ça a donné, je ne sais pas pourquoi cet exemple me vient à l'esprit. Je me trouvais il y a presque 10 ans de ça, dans une réunion des hommes d'affaires du plein évangile. Et à la fin de la réunion, il y a plein de personnes qui s'avancent pour que je prie pour elles. Et puis, il y avait... Je faisais des délivrances, moi je prie pour les gens et des mots commencent à se manifester. Bon, c'est comme ça. Alors je priais pour les gens. Puis je vois arriver une femme et immédiatement le Seigneur m'envoie une vision d'une statue de vierge. Et donc immédiatement je lui dis, vous êtes catholique? Il me dit oui. Et moi, bon, on en reparlera cette semaine, mais délivrer des gens qui vont aller prier après des statues et des morts, c'est de la folie. C'est de la folie. On peut les délivrer, mais ils vont tout rattraper derrière. Et donc, j'étais vraiment bien embêtée parce que cette femme avait manifestement. Attendez, j'ai posé les mains, elle avait les yeux qui repartaient tout blanc à la retourne. Enfin, vraiment, grosse sorcellerie. Il y avait vraiment des signes de gros besoin de délivrance. Et je dis, qu'est-ce que je fais? Alors, je vais voir le président du chapitre, parce que c'était l'autorité, hein, et je lui dis, voilà ce qui se passe. J'ai cette femme, je ne peux que lui dire qu'elle doit arrêter de prier Marie, et elle veut sa délivrance, mais moi je ne peux pas. Il me dit, je suis vraiment très très embêté, parce qu'il y a plus de 50% de catholiques ici, ça peut déclencher une esclandre. J'étais embêté comme tout, parce que cette femme souffrait. Et je reviens, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et à ce moment-là, il me vient dans la tête, le verset, je sais que c'est le Saint-Esprit qui me le souffle. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Comme ça. Et je dis à cette femme, simplement, recevez l'amour de la vérité. Comme ça, poussée par le Seigneur. Recevez l'amour de la vérité. Elle a fait un vol plané en arrière. Il y a quelque chose qui s'est produit et elle a été délivrée. C'est-à-dire qu'il fallait que je prie pour qu'elle reçoive l'amour de la vérité. Parce que si elle ne recevait pas cet amour de la vérité, la délivrance n'aurait servi à rien. Et on pourrait raconter mais des millions d'anecdotes parce qu'il n'y a pas de délivrance semblable. Et plus on est sensible à ce que l'Esprit veut nous montrer et nous dire, plus on est efficace. Et moi, j'ai beaucoup appris. Au début, je dis, allez, et j'ai passé 4 heures. Ah, ils finissaient par sortir les démons. Mais maintenant, quelquefois, plus ça va, plus je laisse faire le Saint-Esprit, mais je suis à l'écoute de ce qu'il dit. Parce que quelquefois, un mot va déclencher quelque chose. Une vision, le nom d'un démon, ils sont démasqués, flaf, ils sont obligés de partir. On peut recevoir des choses extraordinaires comme ça. Je veux dire qu'il y a un domaine où on apprend que d'être sensible à l'obéissance du Seigneur et à faire ce que le Seigneur nous demande, c'est un domaine où on voit la différence d'efficacité entre faire les choses un peu d'une manière abrutie en disant « Oh non, Dieu, tu vas sortir blablabla » et puis faire, être à l'écoute de ce que le Saint-Esprit nous dit. Et faire ce qu'il nous dit, c'est vraiment le domaine de la délivrance. Amen. Alléluia. Donc, voilà pour le tout est accompli. Oui, tout est accompli. Dieu a pourvu. Les choses ont été faites dans les lieux célestes. Mais nous aurons toujours des gestes à faire. Dieu connaît tous nos besoins, mais il veut que nous disions au Seigneur quels sont nos besoins. Parce que quand nous le verrons s'accomplir, nous saurons que ça vient de Dieu. Vous comprenez ça? Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens disent « Ah Seigneur, tu sais ce dont j'ai besoin. » C'est bien de prier comme ça. Mais faites connaître vos besoins à Dieu, c'est 100 fois plus efficace. Ou 1000 fois plus. Ça veut dire qu'on a une foi d'enfant. Père, j'ai besoin d'une bicyclette bleue avec des poignées rouges et des pédales vertes. Que le jour où vous recevez une bicyclette bleue avec des pédales rouges et des... poignées rouges et des pédales vertes, vous savez que ça vient de Dieu. Amen. Parce que vous avez formulé votre prière. Moi, j'ai été époustouflée. Un jour, j'avais écrit une prière. Bonjour, bonjour. J'avais écrit une prière juste après ma conversion, dans le feu. J'écrivais toutes mes prières sur un petit cahier. Et un jour, j'avais mis une prière, mais complètement délirante, où j'avais décrit une maison que je ne pourrais jamais avoir. Où il y avait je demandais qu'il y ait une grande cheminée, qu'il y ait des poutres apparentes, qu'il y ait ceci, qu'il y ait cela, j'avais demandé 2000 hectares de jardin autour, parce que je trouvais que c'était déjà énorme. Et je me suis retrouvé avec 5000 hectares. 5 hectares, pardon. 5000 mètres carrés. Non, 50 000. 50 000. 50 000. 50 000. 50 000. 50 000. 50 000. donc Dieu avait donné au-delà. Bon. Mais j'avais décrit exactement, et quand j'ai déménagé, j'avais oublié ce carnet, il était parti dans un déménagement, je l'avais oublié pendant 4 ans, je déménage mes affaires, j'étais dans cette maison, j'ouvre ce carnet, je tombe sur cette prière, je vois la description exacte que j'avais fait 4 ans avant. Vous savez ce que j'ai fait? Je suis tombée par terre, je me suis mis à pleurer. Non Seigneur, tu es extraordinaire. C'est impressionnant. Amen. Donc, nous sommes dans un domaine, tout est accompli, Dieu a pourvu, mais Dieu veut que nous fassions notre part, que nous, et ça augmente notre foi. Amen. Ça augmente notre foi, nous ne sommes pas des martionnaires. Dieu nous veut participants. Participant de la délivrance, participant de la guérison. Il a porté toutes nos maladies, mais il nous demande de prier pour les malades. Amen. Alléluia. Donc ça, c'est pour les choses. Deuxième fausse doctrine, les chrétiens ne peuvent pas avoir de démons. Qui est-ce qui n'a pas entendu ça? Ce qu'il y a de merveilleux, je vais tout raconter. Vous rentrez juste, vous passez le pas de la porte d'une église, vous n'avez même pas encore dit oui à Jésus, et instantanément, vous laissez tous vos démons à la porte. Chantez l'erreur. Parce que, à mon avis, on devrait entendre beaucoup de bruit quand on rentre dans les églises. Et où est-ce que c'est écrit ça? Où est-ce que c'est écrit? Pourquoi Jésus s'est-il donné de la peine de chasser les démons? Si même simplement son onction suffisait, sa présence suffisait. Dans sa présence, dans son onction, les démons se manifestaient. Ce qui est différent. Mais Jésus prenait l'autorité pour les faire sortir. Sous beaucoup d'onctions, les démons peuvent se manifester. Mais il faut qu'on aille les faire sortir après. Et puis, il n'y a pas beaucoup d'endroits où il y a beaucoup d'onctions comme ça. Alléluia. Enfin, alléluia, c'est pas le mot que je devrais employer. Hein. Alors, les chrétiens ne peuvent pas avoir de démons. C'est une aberration. Les démons, si on les chasse pas, ils sont toujours là. Chaque péché ouvre un port. Alors on va voir déjà que c'est absolument pas scripturaire. Alors on va prendre Éphésiens 4. Là on pose les bases aujourd'hui, hein, enfin cet après-midi. Versets 26 et 27. Si vous vous mettez en colère, ce n'est pas le fait de se mettre en colère qui est un péché. On a des émotions, Dieu aussi se met en colère. C'est de ruminer sa colère, c'est de la tourner en amertume, de la contourner en désir de vengeance, de mettre notre propre justice. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Là, on va commencer à pécher. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Le péché, c'est de laisser la colère s'installer dans notre cœur et de commencer à la ruminer. À qui Paul parle-t-il? À des chrétiens. À des chrétiens qui avaient reçu tous les dons charismatiques, qui étaient ses premières églises, elles étaient puissantes. La plupart avaient des dons prophétiques, parlaient en langue, avaient reçu le baptême du Saint-Esprit, etc. C'est à eux qu'ils parlent, c'est pas aux païens. Et il leur dit juste après, et ne donnez pas d'accès au diable. Donc si une simple colère qu'on rumine par manque de pardon donne accès au diable, qu'en est-il quand on a touché à n'importe quoi? Donc des chrétiens peuvent attraper même des démons. Alors s'ils peuvent en attraper, a fortiori s'ils en ont déjà, ils ne vont pas sortir tout seuls. Amen. On va reprendre un autre passage de Corinthiens 11. Et vous allez voir qu'on nous parle de cas dont on est entouré, qui sont des choses banales. Puis il n'est pas écrit ne donnez pas accès à un petit démon, ça peut être, ne donnez pas accès au diable, ça peut être des gros démons qui rentrent. Pas des petits. On va prendre à partir du verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées, donc on va nous parler que de nos pensées, ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Dans d'autres passages comme de Timothée 4, on nous parlera de vouloir entendre des fables, puis vouloir entendre la saine doctrine. Et la saine doctrine est basée sur la connaissance de la loi, les conséquences de la loi et de ce qu'est la grâce par rapport à la loi. Amen. Et de la crainte de Dieu, d'une sainte crainte de Dieu qui a complètement disparu de nos églises. Je viens de terminer un séminaire sur l'apostasie, les gens étaient collés au plafond en se rendant compte à quel point on est dans l'apostasie dans nos églises aujourd'hui. Amen. Et il continue. Si quelqu'un vient vous prêcher, il parle à qui ? À des chrétiens, aux Corinthiens. Il parle à des gens qui ont, eux aussi, été baptisés du Saint-Esprit, qui ont reçu tous les dons charismatiques, qui ont une église puissante. Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, ah, on peut vous prêcher un autre Jésus ? Oh oui, on va en parler cette semaine. Dieu sait qu'on peut nous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché. Beaucoup de chrétiens ont un autre Jésus. Ils se sont fabriqués le Jésus qui les arrange. Jésus copain, Jésus humaniste, Jésus tolérant, Jésus bonbon, Jésus tranquille, je peux faire ce que je veux. Mais ils ne connaissent pas le vrai Jésus. Ce n'est pas le Jésus de la Bible, celui-là. Jésus, le Jésus du Nouveau Testament et l'éternel des armées de l'Ancien Testament ne font qu'une seule et même personne. Et il n'a pas changé. C'est pas un petit Jésus en bonbon de sucre. Ni un petit bébé dans le bras de sa mère. Quand l'apôtre Jean, qui a connu Jésus dans sa chair, voit Jésus en Apocalypse, se trouve devant une théophanie de Jésus, parce que nul ne peut voir Dieu en face et vivre, quand il se voit simplement devant une théophanie de Jésus, il en tombe par terre. Amen. Quand il voit Jésus dans sa gloire, il en tombe. Pourtant, il l'a connu dans sa chair, Jésus, posé sa tête sur son épaule. Mais là, il le voit dans sa divinité. Et encore, Jésus lui-même se présente de manière qu'il ne le tue pas. Amen. Mais il en tombe. Et tout le long de la Bible, chaque fois que les gens ont été confrontés à une théophanie de Jésus, que ce soit Daniel, que ce soit Isaïe, que ce soit... Ils tombent, ils se sentent, ils sont effrayés, ils se mettent à trembler. D'autres s'enfuient épouvantés. Quand on se voit tel que l'on est face au vrai Jésus, vous savez, dans l'Apocalypse, on nous parle plusieurs fois du véritable. Pierre parle aussi du véritable. Dans les lettres de cette église, Jésus se présente comme le véritable. S'il y a un véritable, c'est qu'il y a un défaut. Je connais beaucoup de chrétiens qui ont un faux Jésus. Alors, ils n'ont aucune crainte. Pourquoi voulez-vous avoir Jésus d'un petit peur d'un petit Jésus gentil, copain Personne ne le craint. Mais ce n'est pas la vraie. Alors, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, aujourd'hui, je crois que dans la majorité des séminaires, on prêche un autre Jésus. Mais oui, c'est la vérité. Que celui que nous vous avons prêché. Ou si vous recevez un autre esprit. Ah, on peut recevoir un autre esprit que le Saint-Esprit en étant chrétien. Mais c'est écrit. Si vous recevez un autre esprit, simplement en ayant une mauvaise doctrine, on peut recevoir d'autres esprits. Moi, j'ai dû délivrer des chrétiens d'esprits qu'ils avaient attrapés dans des séminaires dits chrétiens. Il faut quand même le faire. Des esprits de chamanisme, ils croyaient que c'était des esprits de prophétie. C'est impressionnant. Ou un autre évangile que celui que nous vous avons, que vous avez embrassé, et il dit, vous le supportez très bien. Ça veut dire qu'il est très facile de leurrer les chrétiens, de leur amener un évangile qui n'est pas le vrai évangile. Il le dit d'ailleurs une autre fois, Paul. On peut nous apporter un autre évangile qui a l'odeur, la saveur de l'évangile, mais qui n'est pas l'évangile. Un autre Jésus qui a l'air du Jésus. Oh, il nous arrange bien, il est bon. Mais oui, Jésus est bon. Jésus est merveilleux, Jésus est grave. Mais il est aussi sévère, il est aussi puissant et redoutable. Il est aussi un feu ardent. Amen. qui consumera les pécheurs, nous dit la parole. Et là, on ne nous prêche qu'une moitié de Jésus. Mais si on nous prêche qu'une moitié de Jésus, on ne nous prêche pas le vrai Jésus. Eh bien, on peut recevoir d'autres esprits comme ça. Et c'est dire des chrétiens. Donc, des chrétiens peuvent être démonisés par d'autres esprits. Des gens chrétiens peuvent attraper d'autres esprits. Amen. On pourrait parler, par exemple, en Luc 13. Alors, prenons le cas de Judas. Enfin, on peut dire, ah ouais, mais c'était... Attendez, Judas. Il a été choisi par Jésus. Il a été certainement 100 fois plus disciple que ne le sont la plupart des chrétiens d'aujourd'hui. Il a tout quitté pour suivre Jésus. Judas. Il a tout quitté. Il a été avec Jésus, il est allé prêcher l'évangile, chasser les démons, guérir les malades. Il a reçu toute l'autorité de la part de Jésus. Quand vous voyez en Jean 6 que Jésus annonce qu'il faut boire son sang et manger sa chair, tous les disciples abandonnent, sauf les 12. Dans les 12, il y a Judas. Et en Jean 6, 70, il est dit, « Et l'un de vous, pourtant, est un démon. » Waouh. Pourtant, Judas, Satan, ne va rentrer en lui qu'au moment de la scène. Parce que Jésus lui aura donné de multiples occasions de se repentir. Et qu'est-ce qu'il avait, Judas? On dit, c'est le traître, c'est ceci, c'est cela. Mais il avait simplement un peu l'amour de l'argent. Autant que beaucoup, beaucoup, beaucoup de prédicateurs d'aujourd'hui et de chrétiens d'aujourd'hui. Il n'avait que l'amour de l'argent. Vous savez, Judas, il n'est pas allé... Si Judas avait pensé qu'en allant vendre Jésus, Jésus allait être crucifié, il ne l'aurait pas fait. Mais Judas a raisonné. Il a certainement pensé que Jésus s'en sortirait comme toutes les autres fois. La preuve, dès qu'il a voulu, il a voulu reprendre son argent, dès qu'il a vu qu'on l'arrêtait. Et on n'a pas voulu, il est allé se pendre après. Donc en réalité, il a simplement raisonné. Judas, il n'est pas différent que beaucoup de gens d'aujourd'hui, comprenons-le bien. Il avait simplement l'amour de l'argent, le cœur partagé. Comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens d'aujourd'hui. Eh bien, Satan est rentré en lui. Et en acte 1, Pierre dit, il avait part au même ministère que nous. Il faisait partie de nous, il était des nôtres. Il était pleinement chrétien. Alors, on ne les appelait pas chrétiens à l'époque. Il était tout simplement pleinement converti. Qu'est-ce que c'était qu'un converti à l'époque? C'est quelqu'un qui sortait de la loi juive et qui rentrait dans la grâce accordée par Jésus. Ils étaient pardonnés. Jésus leur a dit, réjouissez-vous que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. Donc, Juda était là. Il était inscrit dans le livre de vie. Satan est rentré en lui. Alors, vous voyez, là on vous donne simplement des exemples de gens qui sont déjà convertis et Satan entre en lui. Alors on en a d'autres exemples. On a l'exemple en Luc 13 de cette femme qui était liée par Satan depuis 18 ans. Alors on peut raconter tout ce qu'on veut, mais quand Jésus dit d'elle, cette fille d'Abraham, il dit bien cette fille d'Abraham, comme Paul va nous dire après, ce sont les descendants de la promesse. Parce que n'oubliez pas qu'en Jean 6, Jean 8 plutôt, Jésus va dire à des juifs qui ont cru, ce n'est pas des pharisiens qui parlent, des juifs qui ont cru, qui sont là, qui le suivent, qui l'écoutent, etc. Il leur dit, vous avez pour père le diable. Mais non, les fils d'Abraham. Il dit non, si vous étiez les fils d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Donc quand il dit, c'est une fille d'Abraham, il parle d'une femme vraiment convertie. Eh bien, elle était liée par Satan depuis 18 ans. Il l'a libérée. Et je terminerai par notre Père, tout simplement. Le vrai notre Père, parce qu'en plus de ça, il a été tordu dans la plupart des Bibles. Mais délivre-nous du malin. C'est la vraie traduction. Vous pouvez prendre ce mot, quand vous regardez dans les mots Strong, là, vous verrez que ce mot, il est toujours traduit par malin. Parce que délivre-nous du malin, ça ne veut rien dire, c'est neutre. Mais délivre-nous du malin, à qui il a donné cette prière? À des chrétiens. Puisqu'ils peuvent commencer par dire notre Père. Donc ce sont des enfants de Dieu. Délivre-nous du malin. Donc des gens qui ont pour Père Dieu, peuvent avoir besoin d'être délivrés du malin. Amen. Donc vous voyez là, pour ces fausses doctrines qui courent comme ça, mais qui sont en réalité des doctrines diaboliques, qui sont simplement pour empêcher les chrétiens d'être libérés et pour empêcher d'autres chrétiens de libérer les autres, parce qu'on va voir que ça va très très loin. Bon, je vais lire quand même 2 Colossiens 2, 15, parce qu'il y a un lien direct entre le fait d'être confessé, d'avoir... On va en parler, on va le lire d'abord. Et vous allez voir qu'il y a des choses quand même qui sont très importantes. On va prendre à partir du verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses. Il parle à des chrétiens là aussi. Hein. Et par l'incirconcision de votre chair. Ça veut dire que les circoncis avaient quand même un avantage sur les incirconcis dans l'ancienne alliance. Hein. Évidemment. C'est quand même le peuple de Dieu. Il vous a rendu à la vie en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il nous parle de chrétiens. Il a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamnées et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Et il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Tout ça n'est qu'un seul texte. Ça veut dire que c'est parce que l'acte est effacé que Satan est dépouillé de tous ses droits contre nous. De quoi il est dépouillé? De tous ses droits contre nous. Parce que l'acte est effacé. Comment l'acte est-il effacé? Est-ce qu'il s'efface tout seul comme ça? Il est effacé par la repentance, par la confession. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Si on n'est pas pardonné, Satan a tous ses droits contre nous. Pour nous pardonner et nous purifier de toutes nos iniquités. Ce sont deux actes différents. Amen. Bon, donc nous voyons ces fausses doctrines qui n'ont déjà pas la route du tout. Et puis il n'y a qu'à regarder, hein. Il n'y a qu'à regarder autour de soi, mais les fausses doctrines ne tiennent pas du tout par rapport aux Écritures. Bon. Alors, domaine de la délivrance, on va parler des domaines de la délivrance, disons tout de suite que malheureusement, la délivrance ne nous délivre pas de notre chair. La chair, est-ce que vous savez que la chair est maudite? Tout ce qui est chair, charnel en nous est maudit. L'apôtre Paul dit en Romains 7, je peux vous donner la référence exacte si vous voulez, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas dans ma chair. Donc tout ce qui est charnel est le terrain du diable. Or notre chair, il faut la faire mourir. Tant qu'elle n'est pas morte, tout ce qui n'est pas mort, c'est le terrain du diable. Notre chair, on sait bien que ce n'est pas notre chair physique dont on nous parle. On nous parle de tout ce qui est charnel en nous, tout ce qui vient de notre ancienne nature adamique, tous ces désirs, ces passions, etc. On nous en parle dans Galates 5, on nous en parle dans plusieurs endroits dans la Bible, je vous en parle en marge, j'aurai l'occasion d'y revenir peut-être cette semaine. Alors, la délivrance, donc, il faut être clair, la délivrance ne résout vraiment pas tout. Ça ne se fera jamais, jamais, jamais. Ça ne nous empêchera d'avoir à faire mourir notre chair, à faire mourir toutes les passions, à faire mourir tout ce qui vient du monde et qui n'est pas de Dieu, et à nous amener à nous affectionner aux choses de l'esprit ou pas aux choses de la chair. Donc tous les chrétiens qui vivent avec des tas de choses qui viennent qui sont dans le monde, qui aiment le monde, qui... c'est pas que Dieu n'est pas contre les petits plaisirs, hein, je veux dire, on n'est pas il nous a pas demandé d'être des ascètes, mais il n'y a rien à faire. Tout ce qui est, on le sait très bien, il y a des tas de choses dans nos vies où on a donné une part de notre vie à Dieu, puis il y a des parts, on a encore des petits jardins personnels là, cool, il y en a un, il a une petite idole qui s'appelle foot, l'autre, je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que chacun sait, hein. Chacun il en a, et puis il n'y a rien à faire, il faut le faire tuer, il faut le faire mourir tout ça, parce que c'est des terrains taxés de diable, point final. Alors on n'est pas délivré de notre chair par la délivrance. Ça, c'est clair. Ça veut dire que les gens qui ne veulent pas marcher dans la volonté de devenir vraiment marcher dans la sainteté le plus possible avec la volonté de le faire, les délivrances serviront à rien. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de gens se sont lassés dans les églises parce que mais il faut tout le temps recommencer. Ben oui, ils ont en face d'eux des chrétiens qui veulent jamais, qui n'ont pas la moindre envie de changer de vie. Ils veulent juste pouvoir avoir une bonne conscience le dimanche matin, mais pour le reste, ils ne changent pas de vie. Pour moi, d'ailleurs, ce ne sont pas vraiment des gens, des vrais convertis. Hein. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais été confrontés à la sainteté de Dieu. Donc, ils ne changent pas de vie. Ils n'ont pas eu de circoncision du cœur. Et donc, il n'y a rien à faire. La chair, c'est le terrain du diable. Quand Paul s'écrit en Romains 7, « Qui me délivrera de ce corps de mort ?» Est-ce que vous croyez vraiment que c'est le lieu privilégié du Saint-Esprit ? Bien sûr que non. Tout ce qui est charnel, donc impur, donc livré, qui vient du monde, n'est pas le terrain du Saint-Esprit. On dit, ah bah oui, c'est le temple du Saint-Esprit, un chrétien, il ne peut pas avoir de démons. Mais je suis désolé, dans un temple, le temple de l'Ancien Testament était une préfiguration du temple que nous sommes devenus. Dans le temple de l'Ancien Testament, il y avait trois lieux. Il y avait le Saint des Saints, pour le grand sacrificateur, et attention, s'il n'était pas hyper pur, il en mourait, hein. Il y avait le lieu saint, ça on peut dire que ça correspond à notre âme, et dans le lieu saint, il y avait des endroits qui étaient saints, et puis il y en avait qui étaient un petit peu moins saints. Il y avait aussi des êtres impurs qui y rentraient, et quant au parvis, ben, c'était n'importe quoi. Et ça correspond à la chair. Amen. Donc, il faut essayer de délivrer des gens qui ne veulent pas changer, marcher vraiment en sainteté. On n'a pas du jour au lendemain, on n'est pas parfait. Cherchez pas des gens parfaits autour de vous. Je ne crois pas que vous en trouverez parce qu'à mon avis, ils sont déjà partis. Hein. Mais on n'est pas parfait, mais si on aime le Seigneur, si on est vraiment converti, on veut le Seigneur vraiment nous transforme. Il nous transforme. Des choses qui nous paraissaient pas graves, le jour où il y a le plureau qui est parti, tout d'un coup, le Seigneur commence à faire. Vous savez, c'est un peu comme les plures d'oignons, là. Dès qu'on a sorti la plus grosse, on s'aperçoit qu'il y en a une autre derrière, puis il y en a encore une autre, puis il y en a encore une autre, puis il y en a encore une autre. Avant d'arriver au cœur, petit cœur pur, là, au tendre, il faut en quelquefois du temps, hein. Chaque fois quelques années, et quelquefois quelques dizaines d'années. Amen. Bon. Enfin, je dis amen. Je ferais mieux de pleurer, mais bon, c'est comme ça. Parce que c'est dur. Moi, vous savez, quand je me suis convertie, j'étais là, bon, je fais une rencontre avec Jésus. Saul sur le chemin de Damas, c'était moi. Hein. Ça, c'était blam, boum, mais... Je suis sorti, ceux qui connaissent mon témoignage, ça a été vraiment foudroyant. Mais pendant des mois, je regardais tous les chrétiens autour de moi tous les dimanches matin. Oh, je disais, ceux-là, mon sang, ils sont déjà tous saints. Ils sont convertis depuis 3 ans, depuis 5 ans, depuis 10 ans. Ils sont tous parfaits. Bon, au bout de 6 mois, j'ai commencé à déchanter.
Je vais essuyer tes lunettes.
Au bout de un, alors j'ai commencé à déchanter sur les chrétiens que je croyais absolument parfaits, et puis la grande désillusion de ma vie, c'est de m'apercevoir qu'au bout de 5 ans, j'étais toujours pas parfaite non plus. Oui, ça va, toi tu me connais bien, ne rajoute pas. Tu me connais depuis 10 ans, ça va. Tu connais tous mes défauts. Oui, mais je t'en cache. Alléluia. Donc, la délivrance ne nous délivre pas de notre chair. On ne peut pas faire de délivrance avec quelqu'un qui ne veut pas marcher. Vraiment, qui ne veut pas marcher avec le Seigneur, qui ne veut pas être transformé, qui ne veut pas non plus. Quand Paul dit, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang contre le péché, je veux dire que c'est le plus grand combat. Ce n'est pas le combat contre les démons, hein. Le plus grand combat qu'un chrétien a amené, c'est le combat contre sa chair. Les démons, c'est très facile, hein. Jésus a tout fait. C'est eux qui tremblent. Mais notre chair, quand on lui dit « Toi, tu vas te taire », elle ne tremble pas. comme disait un de mes amis pasteurs, il me disait, tu vois, mon rêve, ce serait quand on baptise les gens, de les garder 10 minutes sous l'eau. Comme ça, on serait sûr que la chair, une bonne fois pour toutes, on n'en parle plus. Alléluia. Donc, je voudrais quand même rappeler ça parce que c'est essentiel. J'ai fait beaucoup d'échecs dans la délivrance parce que je voulais délivrer tout le monde. Et puis, je me suis aperçu que, moi y compris d'ailleurs, que je recevais des délivrances dans des domaines où je n'avais pas eu de conviction de péché suffisante, où je n'avais pas décidé de stopper comme ça. Je n'avais pas eu vraiment la conviction que c'était terminé dans ma vie. Et les délivrances servaient à rien. Je recommençais y compris derrière. Et les délivrances devenaient de plus en plus difficiles derrière. De plus en plus difficiles. Ça fortifie les démons, frère. Alors, les domaines, les grands domaines de la délivrance. Bon, premier domaine, je dirais que celui-là est presque le plus facile, parce qu'en général, les gens, quand ils ont une vraie rencontre avec le Seigneur, ils ont une conviction de péché profonde, qui est immédiate en général. Moi, les belles conversions, c'est quand je vois les gens arriver dans les larmes. On sent vraiment qu'ils sont visités par le Seigneur, qu'ils ont vraiment fait une rencontre avec le Seigneur, et là, c'est puissant. Mais je dirais qu'en général, la repentance, elle dure quasiment toute la vie. Hein. Parce que le Seigneur nous rappelle régulièrement des trucs qu'on avait oubliés. Et on peut dire que c'est un état permanent, tout d'un coup. D'ailleurs, 2 Pierre 1:9 nous dit... Celui qui ne possède point toutes ces choses, en qui toutes ces choses ne sont point, il nous parle de tous les fruits de l'esprit. Est un... Attendez, qu'est-ce qui dit que l'expression exacte ? De Pierre 1:9. Est aveugle, voilà. Est aveugle. Aveugle. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Vous savez, il y a des gens à qui on dit « Ah ben, ça y est, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont plus devenues nouvelles, tu ne t'occupes plus de ton passé, il est tout blanc comme neige. » Oui, il est tout blanc, mais le Seigneur, pour le rendre plus blanc que blanc, il aime le plus blanc que blanc, lui. Et pour justement nous en purifier, eh bien, il nous ramène les choses du passé pour qu'elles soient réellement blanchies. Parce que tant qu'elles ne sont pas venues à la lumière, tant qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une vraie repentance, ben elles donnent des droits à Satan. Je vais vous donner un exemple très simple, très clair, très précis. Moi, quand je me suis convertie, souvent, vous savez, il y a des choses dont on ne se souvient pas, mais aussi quand on se convertit, on est dans un monde qui est tellement pécheur qu'il y a des choses, on ne sait même pas que c'est des péchés. Tout simplement. Alors que quelquefois il s'agit de choses extrêmement graves. Moi, quand je me suis convertie, Dieu sait que j'aimais le Seigneur. Bon, je vous passe sous les 4 premiers mois où je sortais du culte et où j'allais dans un autre spirit, parce que je pensais que c'était bien. Je peux le raconter maintenant, mais si je l'avais raconté au début, on a ouais. Mais je sortais du culte, j'aimais le Seigneur, mais j'allais immédiatement dans un autre spirit. Je pensais que je rajoutais de la spiritualité. À de la spiritualité. Bon. Au bout de 4 mois, j'ai quand même été éclairé par le Seigneur. Bon, je passe là-dessus. Mais j'entendais tout le temps autour de moi, les gens disent « Oh, l'avortement, c'est mal. » Or, moi, en mai 68, j'avais 27 ans. Ça faisait des années que je rêvais à la libération de la femme. J'étais une 68arde. J'avais fait tous les premiers rendez-vous barricades. J'avais parlé derrière Cohn-Bendit à la Sorbonne. J'étais vraiment la tête, mais vraiment ce qu'on appelle une forteresse, une bonne forteresse, la libération de la femme a le droit de son corps, enfin, vous connaissez tous les discours. Et moi, quand j'entendais autour de moi les gens dire, les chrétiens dire, oh, l'avortement c'est un crime, c'est un meurtre, un assassinat, je pensais, je les admirais beaucoup. Mais je pensais, ils sont quand même un petit peu rétrogrades, ils sont un petit peu, c'est un peu obsolète quand même leur discours. Quand même, il faudrait qu'ils sachent que depuis, quand même, le monde a évolué. J'avais pas la moindre conviction de péché. Or, j'avais fait plusieurs avortements. Et en fait, il a fallu 3 ans pour que le Seigneur me convainque vraiment de pécher. Mais c'est venu par palier. C'était tellement énorme. C'était tellement éloigné de la forteresse que j'avais depuis 20 ans. Bien enfermé. C'est-à-dire, on nous parle d'abattre les forteresses, car les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu pour abattre les forteresses. Nous abattons, nous détruisons les forteresses et toutes les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Nous amenons toute pensée captive à Jésus-Christ, aux Corinthiens 10:3. J'avais des forteresses, et beaucoup de gens ont des forteresses, et on en a de plus en plus, parce qu'ils sont abreuvés de mensonges aujourd'hui. Ils ne savent pas la gravité de ce à quoi ils touchent. Si vous dites à quelqu'un de 20 ans, mais ce serait bien que tu sois vierge pour ton mariage, il vous regarde comme si vous étiez un martien. D'accord ? Et c'est pourtant biblique. D'accord ? Donc ils ne comprennent pas la gravité de ce qui a été fait, de ce qu'ils ont fait. Ils ne comprennent pas. Donc il faut du temps. Ça n'arrive pas comme ça. C'est Dieu qui va petit à petit, par sa parole, amener une conviction. Donc moi, il m'a fallu 3 ans pour arriver à une vraie conviction. Mais c'est arrivé par palier. Au début, au bout d'un moment, j'ai commencé que ce n'était pas bien, parce que je voyais bien dans sa parole des choses. J'ai commencé à me toucher. Et puis j'ai eu une deuxième partie de repentance, parce que j'ai une conviction plus profonde. Et puis un jour, j'étais prête. Et le Seigneur m'a montré que j'avais tué, assassiné 5 enfants de mes mains. Exactement comme si j'avais pris un bébé d'un an et tué, c'était pareil pour lui. Et là, je peux vous dire que j'ai hurlé de douleur face à ce que j'avais fait. Je n'aurais pas été capable de le voir au début. J'avais trop de forteresse de pensée, puis je n'aurais même pas été capable de voir la gravité de mon péché. Il a fallu que le Seigneur me prépare à ça. Mais le jour où je l'ai vu, ça a été un choc profond. Et là, j'ai pu, c'est spontanément que j'ai été délivré d'esprit de mort énorme qui était rentré à l'occasion de ces avortements. C'était des esprits de meurtre, des esprits d'assassinat, des esprits de mort. Et après, je peux vous dire qu'il y a eu un sacré nettoyage à faire, plus le rejet, tout le bazar. Je vous passe tout ce qui va avec. Je veux dire qu'il peut y avoir un temps, un délai. Donc quand on parle de la purification des anciens péchés, déjà dans nos péchés, il peut y avoir un temps. Et je veux dire que plus les gens sont avancés dans la connaissance de l'Écriture et donc dans la connaissance de ce qu'est la vérité divine et ce qu'est la loi de Dieu, et bien plus les délivrances par rapport à notre vie passée sont puissantes et sont fortes, et la purification est grande. Comprenez qu'entre une confession qui est faite, qu'on fait faire d'une façon mécanique, « Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés parce que personne ne s'avance pour la conversion », et la confession qu'on va faire quand tout d'un coup le Seigneur lui-même nous convainc de péché parce que quelque chose nous remonte et qu'on est épouvanté de ce qu'on a fait et que tout d'un coup on prend conscience du mal qu'on a fait, ben vous pensez qu'il y a un gigantesque saut et que là il va y avoir une purification beaucoup plus profonde et là il va pouvoir se placer des délivrances beaucoup plus profondes. Amen. Donc ça c'est le premier domaine. Mais je dirais que déjà dans ce domaine, la plupart du temps, parce que notre repentance suffit, si on n'a pas fait de choses trop graves, je parlerai de la sorcellerie, de choses comme ça, je pourrais dire que notre repentance, plus peut-être la prise d'autorité par rapport à ce qu'on a fait, on peut faire d'auto-délivrance pratiquement. Ou en tout cas, les délivrances ne sont pas très difficiles. Bon, quand on parlera des choses un peu plus lourdes, c'est autre chose. Deuxième chose, alors là, ce sont effectivement les abominations qu'on a pu faire. Si on a touché à l'occultisme, si on a touché à de la sorcellerie, si on a fait, je crois qu'il n'y a pas une personne qui arrive aujourd'hui dans l'église qui n'ait pas touché à l'occultisme. Ou alors, il faut vraiment qu'elle soit née dans une famille chrétienne hyper protégée. Qui est-ce qui ne connaît pas son signe astral ici? Montez-le, me levez la main. On va lui mettre tout de suite une auréole. Non mais je veux dire, on a été baigné là-dedans. Et ne croyez pas que ça soit si petit que ça. Hein. On s'est donné des fausses identités diaboliques qui nous lient. Et là, je vous parle de quelque chose d'extrêmement courant et banal. On est tous plus ou moins dedans. Bon. Mais on, maintenant, qu'est-ce qui n'est pas allé chez un médium, chez une tireuse de cartes, chez un astrologue, chez un guérisseur qui n'a pas fait des sciences de New Age, de trucs, de rebirth, de tout ce que vous voulez. Ça rentre même dans l'église. Alors le New Age rentre dans l'église à tour la rigot. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment des abominations maintenant. Et le problème, c'est comme tout le monde le fait, les gens n'ont pas de conviction de péché parce que c'est très édulcoré. C'est comme mon histoire d'avortement. On n'a même pas conscience de la gravité. Puis il y a autre chose souvent qu'on entend. C'est « oui, mais c'était il y a longtemps ». Mais le temps dans le monde spirituel n'est pas du tout le même que dans le monde physique. C'est pas parce qu'un truc qu'on a été fait il y a 40 ans qui donne moins de droits aux démons. C'est en général même le contraire qui se passe, parce que comme il y a déjà un démon qui était rentré là, souvent on a refait des péchés à cause de ce démon qui nous y poussait, puis surtout on n'avait pas la connaissance de la gravité de ce qu'on a fait. Donc on y est reparti, on en a rajouté, et les liens sont devenus de plus en plus gros. Donc il y a déjà, quand les gens, la plupart des gens maintenant, ont besoin d'être libérés des abominations qu'ils ont faites. Et l'abomination, on aura l'occasion d'en parler cette semaine, mais on va résumer la différence entre le péché et une abomination. Un péché, c'est transgression de la loi. Le péché, c'est la transgression de la loi. Dieu a établi une loi, voilà le bien, voilà le mal. Tu mens, tu transgresses la loi, tu es un menteur, et le mensonge, ben, tu as droit à un esprit de mensonge qui rentre en toi, au final. Qui n'a pas menti? Levez la main. Je ne fais pas recette. Qui n'a jamais volé? Un tout petit peu. Le fisc. Oh, le fisc. Ouais, c'est normal. Puis chez Carrefour, bof. Allez, un crayon de moins en plus. Une voix là, c'est comme ça. Bon, je veux dire, on a tous transgressé les lois. D'accord? Ça, c'est les péchés. Loi de Dieu. Maintenant, il y a les abominations. C'est quand, consciemment ou inconsciemment, on a touché à la spiritualité du diable. Là, c'est des abominations. C'est-à-dire qu'on le sache ou pas, on a fait des alliances avec le domaine du diable. Quand on va voir des médiums, on donne à Satan le droit légal de nous dire quel est notre avenir. Il a de très bons projets. On en parlera demain. Il y a de très très bons projets pour nous. Vous savez, il est écrit en Jérémie 29:11. Moi, je connais les projets que j'ai formés à votre égard, projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez un avenir et une espérance. Le diable, lui, il a Jérémie 29:11, mais un peu inversé. Moi, je connais les projets que j'ai formés à ton égard. Projets de malheur et non de paix, afin que tu n'aies ni avenir ni espérance. Donc, quand on va du côté de Satan, on est livré par Dieu lui-même, c'est dit plusieurs fois dans la Bible, on est livré à Satan. On choisit le camp de Satan. Et là, on est dans des abominations parce qu'on va aider Satan dans sa tâche de destruction. Ce sont des abominations. D'accord? On va déclencher des malédictions non seulement sur nous, mais sur notre famille. Ça veut dire qu'on devient des ennemis de Dieu. Qu'on le sache ou pas. Ce sont des abominations. Alors, la plupart d'entre nous, on vient d'un monde où tout le monde en fait maintenant, où c'est banalisé à l'extrême. Vous ne pouvez pas ouvrir la télévision sans avoir le numéro de www.medium.com, bon, qui s'affiche à l'écran. Je veux dire que tout ça est banalisé comme c'est pas possible. Hein? Donc les gens n'ont pas du tout de conscience de péché, mais les abominations, elles sont là. Donc il y a souvent de très gros nettoyages. Dans les abominations, il y a aussi les fausses religions. On en parlera. Troisième grand domaine de délivrance, j'en ferai un message cette semaine parce que c'est extrêmement important, c'est les liens ancestraux. Hein, c'est-à-dire tous les héritages de malédiction et de souffrance qui nous viennent par les péchés des ancêtres. Il y a des lois que Dieu a écrites et elles fonctionnent. Hein, trop quatre générations, et nous verrons que ça peut aller beaucoup plus loin. Quatrième grand lien, grand domaine, les liens d'âme. Il y a des liens d'âme qui sont justes dans la parole, il y a des liens d'âme qui ne le sont pas. Liens fusionnels, il y a des liens fusionnels très malsains dans les familles, entre amis, dans un couple, il y a des liens fusionnels qui peuvent être très malsains, des liens d'emprise qui peuvent créer de véritables démonisations très fortes, surtout quand il y a des emprises spirituelles. Alors bien sûr, il y a les gourous, il y a les maîtres spirituels, les gens qui ont touché à des choses, mais également dans les églises, il y a des liens d'emprise. C'est très très marrant d'avoir à délivrer quelqu'un de son pasteur. Je suis désolé, mais ça arrive. Mais il y a aussi des pasteurs sorciers. Hein. Pas beaucoup, mais enfin, ils arrivent. Mais ne sous-estimons pas, il y en a. Mais il y a aussi des liens tordus du fait que des gens profitent d'une position spirituelle pour mettre un joug sur les autres. Quand Jésus disait aux pharisiens, vous mettez des jougs sur les autres, ce sont des jougs. Hein, il y a des jougs qui sont mis. Et c'est, il se passe quelque chose sur les liens spirituels. Bon. Cinquième domaine qui est de plus en plus fort, c'est justement l'apostasie, fausse religion, les idolâtries, les faux esprits. On l'a vu tout à l'heure qu'on pouvait avoir des faux esprits. Il y a des pratiques qui rentrent dans les églises maintenant qui sont carrément New Age et qui amènent vraiment des esprits. Moi, j'ai vu des gens qui faisaient soi-disant des danses prophétiques, ils avaient fait des écoles. Pas, attention, il y en a qui sont bonnes. Hein. Mais j'en ai vu qui étaient en réalité du chamanisme. Et on leur apprenait à se mettre en transe. En disant, tu vas recevoir le Saint-Esprit. Puis tu vas prophétiser. Puis aller les délivrer après parce qu'ils sont convaincus que c'est Dieu qui parle par leur bouche. Alors que vous savez que tout ce qui sort, ça vient d'esprits qui sont démoniaques. Quoi. Hein? Alors, les fausses sanctions. Il y a des fausses sanctions. Quand vous savez par exemple que, bon là, actuellement, il y a des. Pour ceux qui viennent sur mon blog, vous voyez qu'il y a quelqu'un qui vient dénoncer ce qui s'était passé à Toronto. Je ne suis pas entièrement d'accord parce que je crois qu'il y avait des choses qui venaient vraiment de Dieu dedans. D'accord? Mais il y a eu aussi des choses qui venaient complètement du diable. Et il n'y a qu'à voir les fruits. Il y a eu des fruits épouvantables qui se sont faits. Il y a eu des bons fruits, il y a eu des mauvais. Parce que dès qu'il y a le blé, il y a les vrais. C'est aussi simple que ça. Mais il y a des gens qui ont reçu des fausses onctions et qui sont réellement ou qui ont eu des impositions des mains de gens qui n'étaient pas clairs du tout et qui avaient des onctions très puissantes mais qui étaient des onctions démoniaques. Et derrière, il y a des esprits qui rentrent comme un magnétiseur. Amen. D'où une certaine sagesse dans les réunions où on essaye d'avoir un peu de discernement avant de laisser n'importe qui imposer une main à n'importe qui. Tout de même, garder une certaine sagesse. Hein? Amen. Moi, j'ai eu des séminaires. D'ailleurs, il y en avait un où tu étais là. Tu te souviens, Nassou, où on avait une femme sorcière qui tournait autour d'eux. On avait une femme qui avait l'air plus chrétienne que les chrétiens. Et puis elle voulait tout le temps venir prophétiser. Et puis moi, j'avais un malaise chaque fois. Et j'arrive pas, je lui dis non, va te rasseoir. Et elle voulait tout le temps. Et puis on l'a surprise, on a été trois à la surprendre, alors qu'elle tournait autour d'un groupe qui priait pour quelqu'un, elle était en train de faire des dents de sorcier autour. Alors on l'a convoquée, et puis on l'a sortie tout de suite. On lui a dit, écoute, ou bien tu te repens, ou tu t'en vas. Moi je suis désolé, mais ce qu'on fait c'est biblique. Hein. On n'est pas là, on doit protéger les brebis. Or, je peux vous dire que je ne fais pas un séminaire comme ça, en tout cas, je n'en ai pas fait beaucoup, où j'ai pas dedans au moins un sorcier. Hein. J'en ai vu quelques-uns, quelquefois. Il y en avait un qui était au fond, qui faisait des trucs comme ça pendant qu'on délivrait la personne devant. Alors, heureusement qu'on les voyait, parce qu'on lui disait, écoute, on n'est pas, il n'y a pas de colère, de haine, ni rien, ni quoi que ce soit, mais on donne à la personne, on lui dit, écoute, ou tu te repens, et tu ne bouges plus, et tu écoutes, ou tu t'en vas, et la personne en général s'en va, ne revient pas. Ben, on ne le fait pas par hasard, parce qu'on le voit. Hein. Mais il y a des gens qui ont été liés, hein, comme ça. Bon. Alors, sixième domaine, qui normalement ne devrait pas avoir lieu, parce qu'on va vous imposer, oui, mais résistez au diable, il se tiendra loin de vous, ce qui est vrai. Bien sûr, la parole de Dieu est vraie. Mais vous avez par exemple en nombre 23-23, facile à retenir, celui-là. Je m'en sers beaucoup dans le combat spirituel. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Donc apparemment, les sorciers peuvent rien contre nous. Je l'ai cru très longtemps. Jusqu'au jour où je suis allée en Afrique, et où j'ai vu tous les chrétiens que nous étions, parce que les sorciers nous attaquaient, associés aux francs-maçons, on s'est tous trouvés par terre, moi avec des bêtes qui me grimpaient sous la peau, on avait tous 39 ou 42 fièvres. J'ai dit, bon, ça va, maintenant j'arrête avec ça. Et j'ai compris une chose, c'est que nous, ils ne peuvent rien contre nous à condition qu'on prenne des armes. Donc lisons chaque fois, Éphésiens. Donc il y a des très grosses attaques, quelquefois, qui sont faites contre les chrétiens. Et si les chrétiens ne prennent pas les armes, pour les contrer, ils peuvent subir des emmerdements, du maraboutage. Moi, j'ai vu des trucs... Écoutez, je vais vous raconter une histoire. Un jour, j'ai une amie qui m'appelle et j'apprends, je n'avais pas eu d'aide depuis 3 mois. Je m'inquiétais et je l'ai enfin au téléphone. Je lui dis, mais qu'est-ce qui t'est... Pourquoi j'ai pas eu de nouvelles? Ah, elle me dit, mais écoute, j'ai eu quelque chose d'extrêmement grave. J'ai eu une syncope, j'ai été à l'hôpital pendant très longtemps. Puis je dis, mais dis donc, j'ai pas de nouvelles de telle sœur. Alors elle, c'était une femme de 75 ans. Je peux vous dire que c'était une sacrée chrétienne qui avait été présidente d'Aglo Paris, qui était vraiment une femme de Dieu formidable. Et puis je demandais une autre, elle dit, oh ben, elle s'est cassée le poignet, elle avait 76 ans, elle s'est cassée le poignet, elle a passé 3 mois dans le plâtre avant que ça se ressoude. Puis j'apprends que le pasteur de leur église avait eu des problèmes, son mari était tombé, etc. Mais je dis, bon, j'étais là, je dis, attends, moi je ne crois pas au hasard comme ça. Je demande, Seigneur, éclaire-moi. Et je vois, j'ai la vision, en priant, je dis, mais il n'y a pas autour de toi, mais je vois un très grand bonhomme, mais un bonhomme assez, qui doit avoir au moins 1m95. Et puis, mais c'est un arabe. Elle me dit, je ne connais pas. Je lui dis, écoute, réfléchis, parce que moi, quand le Seigneur me donne une vision, mais j'avais complètement oublié. Juste avant les vacances, il y a un homme qui est rentré dans notre église. Quand il nous a dit qu'il était un musulman, on l'a tous accueilli à bras ouverts, en pensant qu'il allait se convertir. Et puis, rien d'anormal jusque-là. Et puis après, il est allé s'asseoir sur toutes les chaises de l'église, et tellement qu'il a perturbé le culte, on ne sait pas ce qu'il faisait sur toutes les chaises, mais il allait s'asseoir sur chaque chaise l'une après l'autre, à tel point qu'à la fin, quand même, le pasteur lui a dit de sortir. Mais je dis, mais il a été mettre des malédictions sur chaque chaise. Je dis, qu'est-ce que vous avez fait derrière? Pas rien. Mais ils n'avaient rien fait. Ils n'avaient rien fait. Je veux dire, il y avait un marabout qui était rentré un marabout puissant qui était rentré dans l'église, qui était venu, qui avait fait ses malédictions, qui avait serré la main aux uns aux autres, qui avait dû prendre en plus de ça, il avait repéré les responsables, parce qu'on lui avait présenté, il avait dû probablement aller faire des poupées vaudou, mais ils font tous des poupées après piquer des balles, et ils ont tous eu des accidents, des trucs graves. Je veux dire, nous avons l'autorité, nous avons la puissance, mais nous devons prendre les armes. Éphésiens 6, c'est répété 2 fois. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister au malin. La passivité, ça ne fonctionne pas. On est dans un temps. Alors, tous ceux qui font de la délivrance savent combien on est attaqué. Moi, j'ai eu, peut-être que je vous raconterai cette semaine, j'ai eu 10, le Seigneur m'a fait faire une drôle d'école, j'ai eu 10 sorciers qui se sont liés contre moi pour me tuer. Nassou, elle sait, parce que Pierre-Daniel Martin aussi m'a aidé à l'époque. J'ai dû prier et combattre pendant 5-7 heures par jour, tous les jours pendant 5 mois d'affilée. Nassou était moi, parce que très souvent elle a prié avec moi, toi aussi. Ils étaient là pour me tuer, mais Dieu m'avait averti avant. Mais pour me montrer, pour m'apprendre toutes leurs techniques et que j'apprenne à les contrer. Dieu nous, il nous forme au combat, nous dit la parole, nous dit psaume 18, il nous forme au combat. Comment on forme les gens au combat? Dans le mettant dans la guerre. En le mettant dans la guerre, pas en les laissant dans la caserne ou dans l'infirmerie. Hein. Dieu, on est, Dieu a une armée de l'air et une armée de terre. L'armée de l'air, on sait qui c'est. Mais qui c'est l'armée de terre? Ben c'est nous. Alors des soldats, on est des soldats. Des soldats, on va au combat, on peut recevoir des coups, des blessures. On en a. Mais si on ne se défend pas, avec toutes les armes que Dieu nous a données, nous avons des armes très puissantes, et qu'on est là en disant « Oh, ben rien, il ne m'arrivera rien parce que je suis chrétien », vous en prendrez plein la figure. Et moi, je compare très souvent ce qui se passe pour les chrétiens à ce qui se passe avec l'histoire d'Israël, parce que il y a le peuple qu'on voit de Dieu. Il est dans ses frontières. S'il ne se défend pas, Dieu le défend d'une manière surnaturelle, souvent. Quand on voit la guerre des six jours, quand on voit la guerre de 48, le lendemain même de leur truc, c'était totalement surnaturel ce qu'ils ont fait. La manière dont ils ont gagné les guerres. Mais s'ils n'avaient pas pris les armes, ils étaient rétamés. Amen. Nous avons la même chose, et en plus c'est de l'ordre de la Bible. Prenez toutes les armes, et il est écrit 7 fois dans l'Apocalypse, à chacune église, à celui qui vaincra, est-ce qu'on vainque sans combattre? Le combat est déjà gagné, mais on doit rentrer dans le combat. Amen. Donc il y a des gens quelquefois, il ne faut pas, très souvent, moi, après des séminaires ou après des gros combats, j'ai besoin de délivrance. On doit détruire les envoûtements, les sortilèges, les malédictions qui sont lancées contre nous. Donc il ne faut pas du tout les sous-estimer. Puis il y a des choses qui sont pas du tout à sous-estimer. Il y a des gens qui ont entendu et reçu des malédictions dans les églises et au nom de Jésus. Sous-estimez pas ça. Parce que les gens ont touché au domaine spirituel. Il y a des gens qui sont complètement liés par des malédictions qu'ils ont entendues, ils sont partis de l'église. Oui, puis si tu t'en vas, il va t'arriver que des malheurs, si tu nous quittes. Enfin, des trucs terribles qu'ils ont prononcés comme ça. Des malédictions. On te le dit au nom de Jésus, ils n'hésitent pas, et tu ne prendras pas le nom de ton... Ils vont passer en jugement, ils ont pris le nom de Dieu en vain. Mais n'empêche qu'il y a des conséquences. Moi, j'ai vu des gens qui avaient... Bon, je ne donnerai pas son nom. Mais quelqu'un de très très connu, j'ai dû prier pour lui il y a quelques-uns ici qui vont reconnaître de qui je parle. Il y a 4 jours, parce qu'il avait une sciatique épouvantable. Et il revenait de la Réunion et de la Nouvelle-Calédonie. Et il y en a quelques-uns qui reconnaissent. Et en priant pour lui, je lui dis, mais est-ce que tu as dénoncé la mariolatrie? Il me dit oui. Je dis, parce que je vois une immense image de vierge. Et je dis, il y a beaucoup de gens qui ont prié Marie contre toi. Et je vais détruire ce qu'ils ont fait. Et j'ai détruit. Il m'a dit, mais il y a la douleur qui s'en va. Alors qu'il ne pouvait pas se lever. Il était bien là, ce week-end? J'avais prié la veille de son départ. Je veux dire, heureusement qu'on sait ces choses-là. Mon peuple périt faute de connaissance. Si nous ne connaissons pas ces choses-là, le diable nous roule dans la farine. Le diable nous roule dans la farine. Si on croit qu'on va être automatiquement protégé, oui, bien sûr qu'on est protégé. Tu es bon, mais on est dans une guerre sans merci. Et quand on est au front, on prend des coups. Et on a besoin du soutien, on a besoin de la prière des intercesseurs, on a besoin de prendre toutes les armes, comme nous dit la parole, pour briser tout ce qui a été fait par l'ennemi. Pour détruire les malédictions. On ne peut pas être passif, on n'a pas le droit d'être passif. Sinon, on ne survivrait pas. Moi, il y a longtemps que je serais mort si je n'avais pas pris les armes. Amen. Et puis le septième domaine, qui est malheureusement de plus en plus aussi, c'est tous les trucs qui sont arrivés par les liens sexuels. 1 Corinthiens 6, 16, celui qui couche avec la prostituée ne fait qu'une chair avec la prostituée. Les gens vont avec n'importe qui maintenant, le nombre de personnes qu'on doit délivrer. Parce qu'ils ont ramassé les esprits sorciers de leurs partenaires. Ils ont ramassé les esprits de sirènes, ils ont ramassé tout ce qu'il était possible et inimaginable dans toutes les... Alors on fait croire aux jeunes que c'est normal, mais qu'est-ce qu'ils peuvent ramasser? Donc il faut les libérer de tout ça. Amen. Alléluia. Donc je veux qu'on ait vraiment conscience que ce sont des domaines dans lesquels on doit agir. C'est-à-dire quand on fait des nettoyages spirituels, c'est pas rien en général. Il y a beaucoup de choses à faire. Alors qui peut faire de la délivrance? Je regarde. Normalement, j'ai une montre en face de moi pour me rappeler. Qui peut faire de la délivrance? Alors là, je voudrais vraiment dire que c'est une honte la manière dont on a volé l'autorité aux chrétiens. Tout disciple, je prononce bien le mot disciple. Qui est disciple? Vous savez, Jésus a mis la barre très haut hein, pour être disciple. Celui qui veut être mon disciple doit renoncer à tout ce qu'il possède, doit renoncer à tous ses biens, qu'il prenne sa croix. Il doit m'aimer plus que son père, sa mère, son frère, sa soeur, ses enfants, etc. Je veux dire que Jésus a mis la barre très haut pour être disciple. Aujourd'hui, dans les églises, on met la barre très bas. La barre est très haut pour être disciple de Christ. Mais qu'est-ce qui est attaché au fait d'être un disciple de Christ? On devient des terreurs contre l'ennemi. Et puis, on va pouvoir faire des choses extraordinaires. Aujourd'hui, nos églises sont sans force parce qu'elles ne sont pas composées de disciples. Elles sont composées de chrétiens assis, tièdes. Il y a des gens formidables dedans. J'ai dit d'une manière générale. Hein. Il y a très peu de disciples. Parce que les églises ne forment pas les disciples. Elles ne forment pas les disciples parce que ça coûte cher. Le salut, c'est gratuit, mais être disciple, ça coûte cher. Ça coûte tout. Ça coûte tout. Ça coûte tout ce que le monde aime. Tout ce que notre chair aime. Donc ça coûte cher. Mais là, la récompense qui est attachée à ça, quand on le devient, jamais on a envie de revenir en arrière. Jamais. Parce que c'est extraordinaire la manière dont Dieu peut se servir de nous. Vous savez, qu'est-ce que c'est que servir Dieu? C'est laisser Dieu se servir de nous. Et il a prévu pour chacun d'entre nous, il a prévu des œuvres, il a prévu des services, il a prévu pour certains des ministères, il a prévu pour tout le monde quelque chose. Il n'y a pas de gens inutiles dans son corps. Si on est des disciples de Christ, Dieu peut faire des choses extraordinaires à travers nous. Il peut transformer le monde. Moi, j'étais ébloui par cette phrase qui est dite à un moment donné par un ennemi qui dit « Voilà les hommes qui ont bouleversé le monde !» Parle des apôtres. Ils ont bouleversé le monde. Étienne, il n'a même pas vu le résultat de ce qu'il avait fait. Il était un petit diacre qui servait au diacre, au table. Mais sa prédication devant le Sanhédrin a levé l'apôtre Paul, l'a bourré son cœur, et Paul était prêt à entendre la voix de Dieu quelques jours plus tard. Il avait un esprit de disciple, et il a parlé comme le Saint-Esprit, semble en mettant sa propre vie sur la table. Et il a levé l'apôtre Paul, qui lui a levé des millions de personnes. Amen. Alléluia. Philippe, il a tout lâché pour aller s'occuper d'un Éthiopien dans le désert, et cet Éthiopien, il a commencé à évangéliser toute l'Afrique. Les petites choses qu'on peut faire peuvent avoir des conséquences avec Dieu qui nous dépassent complètement. On est toujours halluciné par ce que Dieu peut faire à travers nous. Si on est simplement à l'écoute et si on rentre dans les œuvres qu'il a préparées pour nous. Amen. Donc, mais à partir du moment où on est des disciples, on peut être des disciples à la première minute où on rencontre Jésus. Ça veut dire simplement, c'est on décide de suivre Christ, quoi qu'il arrive. Alors on va lire Luc 10. Comme je cite acte 10, je le rappelle, acte 10, 38. Vous savez comment Dieu avait oint du Saint-Esprit Jésus-Christ qui allait de lieu en lieu, faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du mal. Il y a partout dans l'Écriture la corrélation entre la guérison et la délivrance. Tout le temps. Guérissant ceux qui étaient sous l'empire du mal. Il y a tout le temps. Vous voyez beaucoup de guérisons que Jésus fait en faisant des délivrances. Et chaque fois qu'il parle de guérir les malades, il a commencé par dire « chassez les démons ». Dans Matthieu 10, il dit « guérissez les malades » et il dit après « chassez les démons ». C'est la seule fois. Chaque fois, il commence par « chasser les démons ». C'est complètement lié. Amen. Alors, déjà, on va lire Luc 9, 1. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir. Les deux. Sur tous les démons. Avec la puissance de guérir les maladies. Là encore, c'est complètement lié. On chasse les démons, ça guérit les maladies. Amen. Ça ne veut pas dire que Dieu ne guérit pas sans qu'il y ait de délivrance. Mais la plupart du temps, c'est lié, associé à des délivrances. Amen. Alors, Luc 10, 1. Après cela, bon, il vient de parler de plein de choses. Et notamment, il vient de parler de gens qui disent « Ah Seigneur, je te suivrai partout, tout vivier où tu iras, etc. » Oh, ils sont tout à fait déterminés. Puis Jésus dit « Oui, mais tu sais, j'ai pas d'oreiller, j'ai juste même pas une pierre pour vous poser ma tête. » Jésus connaît le cœur de chacun. Il sait pourquoi il appelle quelqu'un dans un ministère plein temps. Pourquoi il en appelle un autre dans un tel autre chose. Il a préparé chacun pour certaines choses. Il n'a pas dit, quand il a levé les gens sur la barque, il en a dit qu'à deux de venir et de le suivre, les autres, il les a envoyés continuer à pêcher. Amen. Il fallait bien qu'il y ait des pêcheurs pour aller ramener le poisson aussi. Alléluia. Bon. Donc, le Seigneur sait qui il prépare pour les ministères plein temps. Mais ça ne veut pas dire que partout où on est, on ne peut pas être des disciples de Christ. Ce qui est très différent. Alors, après cela, le Seigneur désigna encore 70 disciples. Et je continue, et il les envoya dans une école. Il leur dit d'y rester 17 ans, qu'après ils seraient peut-être co-pasteur ou diacre. Jésus connaît le cœur des gens, donc c'est lui qui les désigne. Il sait qu'ils ont un cœur de disciple. Tout le monde peut devenir disciple, il suffit de le vouloir, dire Seigneur, ma vie, je la mets sur l'autel, puis je la mets pas en parole, je la mets. Maintenant, tu fais ce que tu veux avec moi. Même si tu dois mourir, si je dois mourir à l'instant même, si ça doit servir pour ton royaume, je suis d'accord. Tu sais, ça coûte, hein. Ça coûte. Ça veut dire vraiment lâcher tout. Il désigna encore 70 autres disciples et les envoya deux à deux devant lui. Il leur a même pas dit « Attendez que j'ai préparé le terrain, puis après vous allez rentrer. » Non, il les envoyait devant lui, dans toutes les villes et tous les lieux où lui-même devait aller. Et vous savez ce qui se passe? Il revient en disant « Ouais, les démons même nous sont soumis !» Ils sont époustouflés. Époustouflés. À partir du moment où ils ont un cœur de disciples, ils ont l'autorité pour chasser les démons. Les démons tremblent devant disciples de Christ. Moi, quand je prie pour les gens, très souvent, les démons commencent à se manifester. Petite prière. Ça commence à se manifester comme ça. Et tout simplement parce qu'ils reconnaissent, et puis en plus de ça, ils connaissent les gens qui font de la délivrance, figurez-vous. C'est aussi biblique. Vous savez, l'histoire des fils de Séva. Ouais, ouais, au nom de Jésus que Paul prêche, là, bam, ils en prennent plein la figure. Et puis, qu'est-ce que disent les démons? Oh ben, on connaît Paul, on connaît Jésus, mais vous, qui êtes-vous? Eux n'étaient pas des disciples. Mais Paul, il savait que c'était un disciple. Et puis en plus, il savait que c'était une terreur contre les démons, Paul. Ils avaient peur. Et dès qu'on a un cœur de disciple, le monde démoniaque tremble. Amen. C'est clair. Ils savent qu'on a reçu force et pouvoir sur eux. Et qu'ils n'ont plus qu'à déguerpir quand on le leur dit. Ils sont obligés d'obéir. Nous avons reçu l'autorité au nom de Jésus-Christ. Donc, il n'y a même pas de temps. Ils viennent à peine d'être nommés, ils sont envoyés pour aller prêcher l'évangile, on ne leur dit pas d'aller faire une école biblique pendant 25 ans. Et on leur... Tout de suite, d'ailleurs, les meilleurs évangélistes, ce sont souvent ceux qui viennent d'être convertis, d'être... De rencontrer Jésus, d'avoir le feu de la passion, c'est souvent les meilleurs évangélistes. Et à partir du moment, et la plupart du temps, on dit aux gens, non, non, tu as la délivrance, non, 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 touche pas. Attends, tu t'assieds, tu bouges pas. Alors qu'ils ont reçu l'autorité. Moi, j'ai fait ma première délivrance, j'avais 4 mois de conversion. C'est la manière dont le Seigneur a fait, parce que j'étais dans une église qui faisait la délivrance. Mais tout le monde me disait, attends, les anciens, les diacres, les trucs, les machins. Je venais d'arriver, il fallait voir dans quel état. Je fumais encore, enfin, je vous passe de toutes les couleurs. Ça, c'était ce qu'ils voyaient, parce qu'il y avait tout ce qu'ils ne voyaient pas. Et puis, donc, moi, si on m'avait dit, tu bouges pas, t'attends d'être absolument parfaite pour pouvoir chasser les démons, parce que sinon, tu vas recevoir plein de coups en échange, je n'aurais jamais rien fait. Mais Dieu, il en avait décidé autrement. Alors, un jour, je pars pour aller dans une réunion organisée, d'ailleurs, par les hommes d'affaires du plein évangile, avec Ray Brooks, pour ceux qui le connaissent. Et dans une église où il y avait 400 places assises, à Cergy-Pontoise, on arrive, les gens qui m'y entraînaient n'avaient pas l'adresse, donc on ne savait pas comment aller, on tourne en rond, on finit d'une manière surnaturelle par atterrir dans l'église, je dis bien surnaturelle parce qu'il y a une voiture qui s'arrête à côté de moi alors que j'étais en train de prier en langue en disant « Vous ne savez pas où est la réunion avec Ray Brooks ?» On était dans un village à complètement paumé, au milieu de la nuit. Vous savez pas où est le séminaire avec Ray Brooks? J'ai dit, si, mais on n'a pas l'adresse. Mais il dit, nous, on a l'adresse, mais on ne sait pas où c'est. On était dans le café d'un côté, on a pris l'adresse, on est arrivé. On arrive, salle archibondée. Il y avait 600 personnes pour 400 places. Et à peine je rentre, il y a une hôtesse qui arrive, qui me prend en disant, j'ai une place réservée pour vous au premier rang. Attendez, moi j'avais 4 mois de conversion, j'étais une illustre inconnue. J'avais même pas écrit mon premier livre. Ah, l'illustre est connue parfaite. Place premier rang. C'est la manière dont Dieu fait. Fin de la réunion. Alors, Greg fait un appel. Puis ça commence à débouler dans tous les sens. Ça roulait de tous les côtés. Les gens, pof, il y en a un qui roule à mes pieds. Et je suis prise par une sainte colère de Dieu. Je commence à pouvoir chasser le démon. Et immédiatement, des personnes, croyant bien faire, non, pas toi, uniquement ceux qui ont le badge. Et à ce moment-là, des gens qui avaient le badge arrivent en disant « Laissez-la faire !» C'était complètement fou. Et je me mets à faire ma délivrance et je vois le démon sortir. Et je hurle dans l'église « Ça y est, délivré !» Et la fille se lève en disant « Je suis délivrée !» Je ne comprenais rien ce qui s'était passé. Mais en fait, le Seigneur me dit « Ne te soucie pas de ce que te demandent les hommes. Je t'ai donné l'autorité. » Et après, c'était drôle parce que dans mon église, quand il y avait des démons qui se manifestaient, même quand j'étais à 5 mètres, en cachette, j'étais là, au nom de Jésus, tu vas t'en aller, toi, là-bas, au nom de Jésus. Et le démon partait. Le démon partait. Moi, je savais qu'il m'obéissait. J'avais seulement un cœur de disciple. On a reçu une autorité fantastique dans le nom de Jésus. Satan fait tout pour nous la voler. Parce qu'on vient cogner dans son camp, direct. Hein. On vient libérer les captifs. Donc, et quand on a libéré les captifs, qu'est-ce qui se passe? Eux, ils se lèvent, et puis ils vont en libérer l'autre. Ça fait boule de neige. Moi, mon travail, je vais m'appeler Madame Boule de Neige. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire boule de neige. C'est pas de faire les choses toutes seules, c'est de faire boule de neige. C'est de lever les gens pour que ça se multiplie, que ça se multiplie, que ça se multiplie, que ça se multiplie, que les gens rentrent dans ce que Jésus leur a donné. Amen. Alléluia, toute la semaine, c'est ce qu'on va faire. Amen. Moi, je me suis réjoui du témoignage de cette fête tout à l'heure. C'était quand même merveilleux de l'avoir arrivé dans un état épouvantable et de le voir au troisième jour, c'est-à-dire qu'il chassait tous les démons, qui délivrait toute sa famille, et puis maintenant, communique ça à tout le monde autour d'elle. Ça, pour moi, c'est ce que je souhaite. Si tous les gens qui sortent d'ici font ça, partent avec la même détermination à la fin de la semaine, j'aurais fait le travail que le Seigneur me demande d'accomplir. Amen. Alléluia. Donc, tout simplement, tout disciple, toute personne qui a un cœur de disciple, qui s'est donné à Jésus, qui donc est devenu étranger et voyageur sur terre, Jésus a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde, avant la croix. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et Pierre dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont vaincu le monde. Donc nous sommes au-dessus de Satan. Nous étions ses esclaves, nous étions sous sa domination, Dieu nous a mis au-dessus de lui. Il les a mis sous nos pieds. C'est à nous tout simplement de prendre l'autorité et de leur dire au nom de Jésus-Christ, j'ai reçu l'autorité contre toi. Voici, je vous ai donné, c'est toujours dans Luc 10, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Amen. On est là pour, on a reçu cette autorité. Si on appartient à Jésus, on a marqué dessus, attention, fils de Dieu. Fille de Dieu aussi. Et les démons, ils ont aussi peur et autant peur des filles de Dieu. Et je vais vous dire, il a même plus peur des femmes que des hommes. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est écrit dans la Genèse, Jésus a dit à la femme, il n'a pas dit votre postérité, il a dit ta postérité lui écrasera la tête. Satan a la haine des femmes. Les femmes sont des sacrées combattantes contre les démons. Elles ont une sensibilité au monde spirituel. Ça ne veut pas dire que les hommes ne font pas de très très bons combattants aussi. Hein. Ne me faites pas dire ce... Mais on a tellement appris aux femmes de se taire, d'être tranquilles, de se mettre sous un voile, de ne plus bouger, qu'on les a ligotées, fagotées, phagocytées. On les a assis alors que ce sont des combattantes extraordinaires, ce sont des intercesseurs extraordinaires. Les hommes ont des responsabilités dans la vie, les femmes ont souvent une sensibilité, une compassion aussi, qui font qu'elles peuvent être de très bonnes combattantes pour la délivrance et pour l'intercession. Amen. Et Satan a fait tout pour leur voler ça. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Amen. Parce que Dieu veut qu'on libère les femmes dans le combat et dans la délivrance. Alléluia. C'est pas à nos muscles que, ni à le volume de notre voix, ni à nos muscles. Que les démons obéissent au nom de Jésus-Christ et à notre foi. S'ils savent qu'on sait qu'on a l'autorité sur eux, ils savent qu'ils n'ont qu'une chose à faire, c'est les guérir. S'ils savent, vous savez, c'est un peu comme les petits chiens. Si on a peur d'eux, alors eux, ils se mettent à aboyer très fort. Si on n'a pas peur d'eux, c'est eux qui se mettent à baisser la queue et à partir. C'est pareil. Si nous savons que nous avons reçu cette autorité, que nous avons cet uniforme, qu'il est marqué sur notre front, fils de Dieu ou fille de Dieu, et que nous sommes la terreur pour le monde de Satan, nous allons vraiment avoir une autorité, nous allons pouvoir faire des choses extraordinaires. Amen. Alléluia. Alors donc, pourquoi est-ce qu'on doit délivrer? Il est écrit en Luc 1,74. Que Jésus nous a accordé une délivrance pour qu'on puisse le servir sans crainte. Parce que quand on est lié, on a des contre-coups quand on fait des délivrances. D'ailleurs, ce n'est pas très méchant ça. Le simple fait d'avoir des contre-coups dans certains domaines, moi je l'ai vu, on priait pour un domaine où nous-mêmes on n'était pas complètement libérés, nous permettait de voir qu'on n'était pas complètement libérés dans ce domaine, parce qu'on avait des contre-coups. On dit, aïe, 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 j'ai eu un coup là, j'ai eu un mal de tête. Très souvent, il y a des gens qui m'ont dit, mais dis donc, pendant que j'intercède, j'ai mal à la tête. Je dis, bon, attends, si tu as mal à la tête pendant que tu intercèdes, c'est que tu as besoin d'une délivrance. Ou si tu as des esprits de sommeil qui tombent dessus dès que tu ouvres la Bible, désolé, c'est que tu as besoin d'une délivrance. C'est aussi des signes. Et en général, derrière, on fait des délivrances, effectivement, et ça change. Amen. Alors, c'est pour servir Dieu. Dieu veut nous libérer pour qu'on puisse le servir sans crainte. Parce que quand, en plus, vous savez, je crois que c'est le domaine où on a le plus, où notre foi grandit le plus, c'est dans le domaine de la délivrance. Quand on voit la manière dont ce monde qui nous a terrorisés est terrorisé par nous, au nom de Jésus, on se rend compte. Quelle puissance il y a derrière ce nom. On se rend compte de la puissance du sang de Jésus. On se rend compte de ce qu'il a fait à la croix de Golgotha. Notre foi augmente. En plus, quand on prend l'habitude d'utiliser la parole de Dieu, quand on voit la puissance de la parole de Dieu contre le monde satanique, je vous assure que notre foi augmente. Les gens qui ont le plus de foi, je trouve, c'est souvent ceux qui sont les intercesseurs et les gens qui font de la délivrance. Parce qu'ils voient véritablement le ciel s'ouvrir, ils voient le monde bouger, ils voient les vies changer autour d'eux, ils voient les gens transformés, ils voient des choses merveilleuses, ils voient la puissance de Dieu à l'œuvre. Amen. On voit des guérisons, on voit des infirmités qui disparaissent, on voit des choses fantastiques quand même. Alléluia. Ça ne veut pas dire qu'on est épargné nous-mêmes. Hein. C'est pas grave. Pas grave. Alors, les obstacles à la délivrance. La première chose, c'est notre propre manque de foi. Notre manque de foi qui peut être fait par le fait qu'on lit peu la parole de Dieu et qu'on croit, qu'on ne comprend pas, qu'on ne comprend pas ce que Dieu nous a donné. Mais ça peut être aussi parce qu'on a subi tellement d'intimidation qu'on a été ligoté. On nous a tellement appris à nous asseoir qu'il n'y avait que le pasteur qui pouvait faire des délivrances, que l'ancien ou l'orateur de passage, que taf, tout le monde a été bloqué. Deuxièmement, le deuxième obstacle, c'est qu'il y a beaucoup de gens, ils ne sont pas prêts pour être délivrés du tout. Ils ne sont pas passés par une vraie conversion, ils n'ont pas eu de vraies convictions de péché. On s'acharne à les délivrer et on perd un temps fou. On a tous fait cette erreur. On a tous fait cette erreur. Nous acharner, moi maintenant je ne m'acharne plus. Quand je vois que les démons ne bougent pas dans une personne, j'arrête. Je sais que la personne n'est pas prête. Parce que, bon, quand on parlera des esprits humains, on parlera de. Mais ça, c'est autre chose. Ça, je vous le garde pour je sais pas quand. Vous voyez, je fais un peu mes messages un peu au fur et à mesure en fonction de ce que j'ai pu dire, ce que j'ai pas pu dire. Bon. Troisième chose, il y a souvent un travail pastoral qui n'a pas été fait. Moi, dans les délivrances, à un moment, je faisais beaucoup de délivrances, les gens venaient chez moi, je faisais le nombre de personnes dont je me suis aperçu qu'ils avaient une ignorance totale par rapport au pardon. Alors, manque de pardon, c'est même pas la peine de faire des délivrances si les gens n'ont pas pardonné. Il est écrit que si quelqu'un n'a pas pardonné, de toute façon, il ne sera pas pardonné. Je parle que du pardon ce soir. Parce que c'est tellement important dans la délivrance. Alors déjà, il faut pratiquement tout enseigner aux gens. Alors, faire des délivrances et devoir faire tout le travail pastoral qui n'a pas été fait, alors que les gens sont quelquefois depuis 3 ans ou 5 ans dans les églises, parce qu'ils n'ont pas eu les fondements, comme dit Hébreu, ils n'ont pas eu les bons fondements de la parole. Il n'y a pas de crainte de Dieu, il n'y a pas eu de confession, il n'y a pas eu de vraie repentance, il n'y a pas eu de vrai pardon qui a été donné, etc., etc. Alors il faut tout recommencer à zéro. Donc malheureusement, ça fait partie des obstacles. Quelquefois, on est obligé de dire aux gens, je suis désolé, mais il va falloir que tu reprennes ton enseignement à zéro. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas faire la délivrance et faire tout le travail pastoral ou quelquefois qui demande des mois et des mois d'enseignement. Hein. Et puis quelquefois, les gens eux-mêmes, ils entendent d'un côté, ils ne lisent jamais la Bible, ça ne les intéresse pas. Alors, ils ne sont pas nourris de la parole de Dieu. Donc, on va avoir des obstacles qui sont faits. L'autre grand, ceux qu'on délivre le mieux, c'est les gens qui sont des disciples. Parce que les démons n'ont plus aucun droit sur eux. Plus les gens sont avancés dans la conversion, dans l'engagement avec le Seigneur, plus les délivrances sont faciles. Et ne croyez pas que les gens n'ont pas besoin de délivrance. Si je vous disais le nombre de pasteurs qui ont défilé chez moi pour la délivrance, mais des belles délivrances, hein. Il y en a qui venaient volontiers en pensant qu'ils savaient qu'ils avaient des grosses délivrances à faire, il y en a qui ignoraient les grosses délivrances qu'ils auraient à subir. Ils croyaient qu'ils auraient juste un petit problème. Bon, attendez, 8 jours après, on y était encore. Et les hurlements et le reste. Bon. Mais c'était des gens engagés, donc la délivrance était efficace. Et surtout, comme ils connaissent bien la parole de Dieu, derrière, ils vont pouvoir faire le bon combat et garder leur délivrance. Vous savez, nulle part dans la Bible, vous voyez garder la délivrance. Il y a beaucoup de gens à qui on dit, et maintenant garde ta délivrance. Et les gens disent, qu'est-ce que je fais pour garder ma délivrance? Et en plus, on leur flanque un poids de culpabilité. Ah, c'est parce que tu n'as pas gardé ta délivrance. Ah, tu n'as pas gardé ta guérison. Ah, tu n'as pas gardé ton... Attendez, on garde sa délivrance parce qu'on apprend le combat spirituel et qu'on continue à combattre derrière. L'ennemi, il va revenir. Hein. Il va essayer de revenir. Il va essayer de nous refaire chuter pour revenir. Donc derrière, il y a du combat. Derrière la délivrance. Donc les gens, plus les gens sont enseignés dans la parole, plus ils connaissent des versets bibliques, plus ils savent comment résister au diable par la parole de Dieu, plus la délivrance sera gardée. C'est aussi simple que ça. Alors, j'ai dit, un des grands obstacles, c'est l'absence de pardon et l'absence de confession. Il y a des gens qui ont une honte terrible. Ils n'arrivent pas, ça c'est un des arts de Satan, c'est de donner une honte terrible à certaines personnes sur certaines choses qui sont pourtant quelquefois banales. Enfin, banales. Rien n'est banal vis-à-vis de Dieu. Le péché n'est jamais banal. Mais disons courant. Courant. Et les gens ont une honte en disant si jamais les gens savaient ça. Et n'ont jamais confessé à personne. Mais malheureusement, eh ben le diable garde les droits. Moi, il m'est arrivé souvent dans des délivrances. Je voyais que ça ne bougeait pas, j'arrête tout. Je lui dis, il y a quelque chose que tu n'as pas dit. Et puis, tout d'un coup, on apprend à dire, oui, c'est vrai, j'ai jamais confessé que j'avais fait un avortement. J'ai jamais confessé que puis il y a ou des haines cachées ou des choses comme ça. Quelquefois, il y a des gens comme ça, ils. Oh là là là. Et puis il y en a d'autres qui disent, ah ça je me le pardonnerai jamais. Alors évidemment, s'il ne se pardonne pas un péché, ça veut dire qu'il ne croit pas que le sacrifice de Jésus est suffisant, ça bloque la délivrance aussi. Bon, l'hypergrâce. Aujourd'hui, les gens, c'est on n'est plus sous la loi. Moi, quand je me suis converti, j'entendais tout le temps ça. Ah, on n'est plus sous la loi. Ouais, ça voulait dire que vous pouvez faire tout ce qu'on voulait. Un jour, j'ai dit au Seigneur, je sais que c'est pas vrai, ça. C'est pas comme ça que ça marche. On n'est plus sous la loi parce que d'abord, on ne prend pas un tiers de verset ou un demi-verset. Chaque fois qu'il est dit qu'on n'est plus sous la loi, il est dit, on n'est plus sous la loi, nous qui marchons par l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'on marche par l'Esprit de Dieu? Quand on ne marche pas par l'Esprit de Dieu, on est sous la loi. Quand on pêche, on est sous la loi. On se remet d'office sous la loi. Donc, la doctrine de l'hypergrâce, comme l'a appelé un évangéliste américain, c'est tout simplement, on pense que grâce à Jésus, on est gracié, on est sauvé on est sauvé par l'éternité. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que ça fait partie d'un message sur l'apostasie, mais on peut perdre le salut. Pour ceux qui vont sur mon site, vous savez que j'ai mis un message entier là-dessus, il y a énormément de textes bibliques qui montrent que notre nom peut être effacé du livre de vie, qu'on peut perdre le salut. Et il y a beaucoup de gens à qui entendent maintenant, mais tu peux faire n'importe quoi, tu as été sauvé une fois, tu l'es sauvé pour toujours. Ce n'est pas biblique. Alors des gens qui vivent dans cette notion d'hypergrâce, je peux faire n'importe quoi, c'est même pas la peine. Pour moi, ce sont des faux chrétiens. Ils correspondent à ce qui est écrit en 2 Timothée 3:1. On va le lire. Parce que vous allez voir que Timothée parle de ceux qui s'appellent chrétiens de la fin des temps. Je n'avais pas prévu de le lire, mais bon, on va le lire. Je ne peux pas dire que je le connais par cœur, parce qu'il y a 27 mots d'affilée. Vous avez sûrement tous lu ce texte, mais maintenant, au lieu d'entendre les gens, vous allez entendre ceux qui se disent chrétiens. Et vous allez voir que c'est bien le cas. Sache que dans les derniers jours, on est dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Car les hommes, alors changez homme par ceux qui se disent chrétiens, seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, donc ils aiment Dieu. C'est pour ça que je vous dis qu'on vous parle de chrétiens, de gens qui disent chrétiens. Ayant l'apparence de la piété, est-ce que les païens ont l'apparence de la piété? Ils ne l'ont pas. Donc ce sont des gens qui vont au culte, des gens qui crient Alléluia, qui lèvent les bras, qui chantent les chants, etc. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, et quand on lit 1 Timothée 4, c'est la saine doctrine, c'est-à-dire la doctrine fondamentale qui a été donnée par Paul et par Jésus, bien sûr, et par toutes les Écritures, et dans laquelle il y a la crainte de Dieu, où il y a, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Entre autres, parce qu'il y en a des versets pour dire... Donc, Et Paul dit, éloigne-toi de ces hommes-là, on est loin de l'humanisme. Hein. Donc comment voulez-vous délivrer des chrétiens qui sont dans cet état-là? Et pourtant, ce sont ceux qui réclament le plus leur délivrance. Ils pensent que quand ils vont être délivrés, ils vont devenir des anges tout d'un coup comme ça. Ça ne fonctionne pas. Commencez par devenir des anges, après vous serez délivrés. Ça marche mieux dans ce sens-là. Non, enfin, marchons dans la sainteté, point final. Ayons la soif de la sainteté et Dieu va nous délivrer. C'est une de ses promesses, il le fera. Amen. Alors, il y a des erreurs qui sont faites, j'en parle parce que malheureusement, c'est en train de se répandre. Il y a des gens qui font de la délivrance actuellement. Ils demandent aux démons de se nommer eux-mêmes, de dire tout sur la personne, de raconter des trucs, de prophétiser. Attendez, ben, il y a des gens qui font des délivrances en parlant aux démons. Mais vous prenez Marc 1, vous verrez que Jésus dit aux démons, tais-toi. Il n'y a qu'une fois où il interroge quel est ton nom. Mais c'était pour montrer qu'ils étaient déjà des milliers. Du reste du temps, c'était toi. Pas qu'une fois que Jésus le dit. Donc il y a des tas de choses. Alors, donc, je vais arrêter là. Hein. D'accord, ok. J'arrête là. Donc, c'est les bases, si vous voulez. Des bases, je n'ai pas tout dit, mais ce sont des bases pour la délivrance. Pas parler des conditions, des trucs en équipe, on aura peut-être l'occasion de le faire cette semaine. Mais retenons quand même des choses. Premièrement, les besoins de délivrance sont gigantesques dans le corps du Christ. C'est pas quelques personnes renommées pour leur délivrance qui peuvent assumer. On entend des cris de détresse de partout et on peut dire qu'on y laisse notre peau. Si on fonctionne, on a tous fait cette erreur. C'est de la fausse compassion, on essaye de dire oui à tout le monde. Moralité, on y laisse notre peau nous-mêmes. Et ce n'est absolument pas biblique. Tout disciple a reçu non seulement le pouvoir, la force, mais l'ordre de chasser les démons. Et les démons nous sont soumis. Amen. Deuxièmement, là, il y a beaucoup de gens, donc les disciples peuvent tous le faire. Mais il y a beaucoup de gens qu'on a du mal à délivrer parce qu'ils ont des mauvaises bases, leur conversion est mauvaise et ils ne sont pas déterminés à être des disciples. Donc on aura vraiment des bons résultats avec des gens qui sont vraiment déterminés à devenir des disciples. Et devenir des disciples coûte très cher. Ça coûte très très cher. N'en doutez pas. Ça coûte très cher. Mais c'est tout ce qu'on a du Seigneur, Dieu nous le donne d'une manière tellement puissante qu'il nous donne autre chose qui vaut largement tout ce qu'on a perdu. Largement. Il n'y a pas de prix à ce qu'il nous donne. Il n'y a pas de prix. C'est la paix, c'est la joie, c'est la certitude qu'on est, que notre vie a un sens, en plus qu'on s'accumule des trésors pour l'éternité. Qu'on peut devenir véritablement des outils d'une puissance extraordinaire dans la main du Seigneur. Qu'on peut voir notre route, sur notre route, vraiment, quand Jésus a dit, celui qui croit en moi, des fleuves de vie sortiront de lui. Pas trop route. On va devenir des bénédictions ambulantes. On va devenir des gens par qui les vies vont être transformées sans même quelquefois qu'on le sache. On va semer la bénédiction sur notre route. Alors que Paul dit très bien que je ne fais le bien que ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Je fais le mal que je ne veux pas, je ne fais pas le bien que je veux. Il ne faut pas se faire d'illusions. Ce sont des œuvres vaines. Moi, quand j'entends quelqu'un qui dit je suis trop bon, je commence par lui dire va te convertir, si tu vas comprendre. Alléluia, on va s'arrêter là pour cet après-midi. On va se mettre vraiment dans la prière parce que généralement je commence ces séminaires par un appel. Il y a beaucoup de gens qui se sont avancés pour dire oui à Jésus. Mais il y a peu de disciples dans le corps de Christ. Il y a peu de disciples. Et être disciple, c'est vraiment se mettre en entier sur le terrain. C'est accepter que le Seigneur vraiment tue notre chair avec notre rêve et avec notre consentement. Tue tout cet ego qui veut prendre toute place pour que Jésus prenne toute la place. Pour que ce soit lui qui vive en nous. Pour qu'on soit vraiment des porteurs de la bénédiction de Dieu. Qu'on soit ces fleuves de vie. Peu importe les œuvres que du moment qu'on rentre dans les œuvres que Dieu a préparées pour nous. Dieu va guider nos pas. Dieu va guider nos pas. Il y a souvent des gens qui disent, que dois-je faire? Vous vous souvenez de ce que Pierre a répondu? Repentez-vous. Et que chacun soit baptisé. Ça veut dire, mais mourir, le baptême, c'est la mort à soi-même. Hein. On accepte de mourir. Et que le Seigneur, désormais, soit vraiment le seul maître de notre vie dans tous les domaines. Puis on est dans des temps terribles. Je veux dire qu'aujourd'hui, si on n'est pas des disciples, compte tenu de l'apostasie qui arrive dans les églises, et qui est installée dans les églises. Hein, Jésus a annoncé qu'il y aurait la grande apostasie avant que l'église soit enlevée. Il faut d'abord que l'apostasie soit arrivée. Parce que justement, c'est là que les vrais cœurs, ce qu'il y a dans le cœur de chacun, est démasqué. Mais dans les temps qui viennent, si on n'est pas des disciples, on ne tiendra pas. Je pense personnellement que la persécution va arriver sur l'Église de France dans très peu de temps. Et quand je parle de persécution, je parle de persécution dure. Hein. Que beaucoup d'églises vont, il n'y en a pas beaucoup qui vont tenir debout. Donc c'est là où les chrétiens vont être arrêtés. Vous savez, un jour, Marie a dit une parole d'une sagesse extraordinaire. En général, je ne fais pas de mariolatrie, mais elle a dit des choses extraordinaires. Elle a dit un jour à des gens qui sont venus la trouver, qu'est-ce que Marie a dit? Faites ce qu'il vous dira. Le rôle d'un ministère, c'est d'apprendre aux gens à écouter Jésus et à faire ce qu'il nous dit. Amen. Moi, j'ai des pasteurs qui sont venus me trouver en me disant, mais pourquoi est-ce que notre église s'est écroulée? Mais je dis, mais vous n'avez même pas eu cette sagesse. Vous dites aux gens ce qu'ils doivent faire, au lieu de leur apprendre à écouter Christ pour savoir ce qu'ils doivent faire. Parce que, à ce moment-là, il y a un ordre parfait. Parce que Dieu a tout prévu pour chacun une place. Et des œuvres. Et chacun est à sa place. Amen. Je vais faire un appel. C'est un appel, mais je voudrais d'abord qu'on prenne le temps de prier. Parce que ce n'est pas un appel léger. On a un Dieu d'alliance. Quand Dieu fait son alliance avec nous, son alliance est éternelle. Il attend de nous une alliance éternelle. Et l'appel que je vais faire, je ne vais pas faire beaucoup d'appels cette semaine. Le reste du temps, je laisse le Saint-Esprit agir. Mais là, je vais faire un appel. Et l'appel que je vais faire, c'est est-ce que vous êtes vraiment déterminé à devenir des disciples? Et ne n'y allez pas pour y aller. Allez-y parce que vous aurez une conviction profonde que le Seigneur sait ce qu'il veut pour vous. Mais que ça va vous coûter cher. Et comme les ouvriers de la dernière heure, ou comme le fils qui a dit, commencez par dire non, mais qui est allé, il vaut mieux y aller, dire oui, en étant vraiment convaincu que c'est définitif, comme dans un mariage, à la vie et à la mort, et pour l'éternité en plus avec le Seigneur. On ne revient pas dessus. C'est trop grave, parce qu'après le cœur s'endurcit très vite.
Simplement dire, entre parenthèses, mon cher, que je me suis fait voler mon onction la dernière fois de disciple. Je pense que je peux le refaire.
Moi, je crois pas. On se fait pas voler son onction.
Pas voler, façon de parler, je veux dire, bon, quelque part, j'ai été un petit peu étonnée. Je reprends le...
Non, mais tu peux avoir été écrasé, c'est tout ouais, à fait autre chose. Mais comment on va parler des liens d'emprise cette semaine? Ce sera plus ça. Là, je voudrais vraiment cerner sur le fait vraiment de se mettre, d'être d'accord pour se mettre tout entier sur l'autel avec ce que ça comporte. Je veux dire que ça peut comporter la mort, hein. Ça Ça peut comporter les temps de persécution arrivent, ça peut comporter des tribulations terribles. Ça peut comporter des moments très très difficiles. Être disciple de Christ, ça ne va pas être de l'eau de rose maintenant. Parce qu'on est dans la guerre des derniers temps. Mais c'est un choix. Dieu nous a toujours laissé libre de nos choix. Attends, on a oublié de faire une annonce pour les portables. Ah oui, mais c'est Laurent. Bon, pendant que le livre a chanté, oui. Je pense que si on n'est pas disciple, mais on ne devient pas disciple par crainte de ce qui nous arriverait, on devient disciple parce qu'on fait confiance en Jésus.
Vous comprenez ? Et quand on a décidé d'obéir à Jésus.
Et quand on a décidé d'obéir à Jésus, parce que oui, mais on décide d'obéir à Jésus parce qu'on lui fait une confiance aveugle, c'est un chèque en blanc.
Est-ce que ça va pas aussi dans l'esprit du disciple ? Parce que moi, c'est ma, j'en suis là, quoi.
Oui, non, mais.
J'ai pris ma décision d'obéir et de.
Oui, mais c'est ça, devenir disciple, c'est Seigneur, quoi que tu me demandes, même si je dois passer par des souffrances que je ne comprends pas, même si je dois passer par des épreuves, des tribulations, même si je dois me mettre en miettes, en morceaux, tu, ma vie, t'appartient désormais. Tu seras en contrôle. Je réclame pas en échange quelque chose. Être disciple, on fait confiance à Jésus. On dit pas, on fait pas de troc. On lui fait confiance parce que dans sa parole, si on est des disciples, nous savons qu'il y a une grande récompense au ciel. Il peut y en avoir une sur terre aussi. Mais il peut y avoir beaucoup de persécutions et de tribulations sur terre. Regardez tous les disciples de Christ. Mais aucun n'aurait laissé sa place. Aucun n'aurait laissé sa place. Parce qu'il a semé la vie. Au lieu de semer la mort, il a semé la vie. Amen. Donc je voudrais qu'on prenne le temps pendant qu'il chante. Prie en langue. Je ne sais pas ce que Dieu va faire, mais sérieusement, laissez le Seigneur que ce soit des décisions vraies. Je veux dire, on ne joue pas avec le Seigneur, on ne triche pas, il connaît le fond de notre âme. Si on veut, peut-être que ce n'est pas l'heure, peut-être qu'on peut. Vous savez, Dieu connaît le fond de notre cœur. Seigneur, je ne me sens pas encore capable. Je ne me sens pas encore capable.
T'aimer et faire comme tu veux. Je veux te le dire sans cesse, la beauté, la richesse, toutes tes promesses. Je veux que ma vie soit réglée selon toute ta volonté. Faire ce que tu me diras, marcher dans tes pas, suivre toutes tes voies. Je veux me consacrer à toi, louer, obéir à ta voix, céder toute ma volonté, être déterminé.
Seigneur, révèle-toi. Révèle qui tu es. Révèle qui tu es. Révèle, Seigneur. Révèle ta puissance, ta sainteté, ta majesté. Seigneur, souvent nous avons eu un faux Jésus dans notre vie. Un petit Jésus, un copain. Seigneur, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Seigneur, tu es aussi le Dieu puissant et redoutable.
Jésus,
et c'est à ce Dieu
tu m'as tellement aimé. Mes peurs, tu les as balayées. Seigneur, tu m'as tranquillisé. Quand la vie m'a blessé, toi tu m'as rassuré. Je veux t'offrir chaque seconde. Le plus me conformer au monde. Jésus, sous ta grâce minore, ton amour sur un bon sous le péché de mon monde. Jésus, tu m'as tellement aimé, les veuves, tu les as balayées. Seigneur, tu m'as tranquillisé, parce que tu m'as touché,
tu m'as aimé. Qui est Jésus? C'est aussi le Père éternel, c'est aussi le Puissant. Le Dieu de l'Ancien Testament et Jésus-Christ sont le même. C'est le même.
Je déclare à cette terre, révèle-toi, révèle-toi. Seigneur, mets dans le cœur ce que tu appelles, ce que tu appelles. Qui t'a parlé, je ne l'ai pas mis ici pour rien. Je dégage, je dégage.
Lâche-la, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Allez, lâche-la, maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu sors d'elle, maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Demandez au Seigneur une révélation de Jésus-Christ.
la parole de Dieu que pour que les démons sortent des soufflets. Oui, des démons toussés. Ces démons, ils sortent tout seuls. C'est eux qui nous font tousser. D'accord ? Il y a beaucoup de trucs. Moi, je suis désolée. On dit soufflez, soufflez, soufflez. Comme si en soufflant, mais alors à ce moment-là, n'ayez pas envie parce que vous allez cracher tous vos démons d'un coup. Non, dans la parole, on prend autorité et les démons sortent. C'est pas en soufflant qu'on va les faire sortir. Enfin, moi, je n'ai pas vu ça dans la parole. Je n'ai jamais constaté que ça avait une efficacité quelconque. C'est un leurre. On fait croire aux gens qu'ils ont fait sortir les démons et qu'on les laisse sortir.
Ta femme est dans la chambre. Mais là, elle peut nous amener. Ah, elle est là. Bonjour. Comment on y va ?